Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, avant le premier numéro de Culture Sport, on va faire un petit best-of des interviews que nous avons réalisées sur le forum Sport Santé Environnement. On va faire le premier flash de la saison, un flash qui va s'articuler surtout autour du football et du rugby, hein, parce que c'est principalement ces deux sports qui ont repris. On va commencer d'ailleurs par le football et le National 2 avec la CFC qui disputait déjà son troisième match de la saison avec la réception de Gol FC. Un match important pour la CFC qui, après deux matchs, ne comptait qu'un seul point. Les hommes de David Gigel devaient vraiment l'emporter pour enregistrer leur première victoire de la saison. Et malgré la meilleure prestation de la saison, clairement, les Angoumoisins ont été tenus en échec par Gol FC 0-0. Foncièrement, faire match nul contre une équipe qui est l'un des favoris de la poule, c'est plutôt positif. Malgré tout, Gol FC avait pris un rouge à la 34e minute. Nicolas Nzemba, leur latéral gauche, avait été expulsé directement. Et c'est vrai que même si le 0-0 est une bonne prestation, il manque ce petit but qui aurait fait une grosse différence et qui aurait permis aux Angoumoisins de prendre les 3 points. Malgré tout, c'est quand même encourageant pour la CFC qui monte en puissance au fur et à mesure de ses sorties et qui aura un match hyper important le week-end prochain puisque Angoulême se déplacera à Moulin-Isère qui compte 0 points après 3 matchs. Je vais donner les résultats de cette troisième journée de National 2 avec deux matchs le vendredi soir. Angoulême, Gol FC 0-0, Les Herbiers Bergerac 1 partout et samedi se jouer le reste de la journée avec la victoire de Nantes 3-1 contre Chamalières, la victoire d'Andrézieux contre Trélissac 1-0, la victoire d'Angers contre Moulins 2-1, le match nul entre Lorient et Saumur 1 partout, la victoire de Vierzon au Stade Bordelais 1-0 et enfin le match nul de Bourges contre Romorantin 2 partout dans le derby de la Sologne. Au classement premier, 3 équipes ex aequo, 4 équipes ex aequo même avec Andrézieux, Saumur, Vierzon et Gol FC donc qui compte tous les 4 7 points. Aucune équipe n'a fait 3 victoires donc c'est signe que cette poule est vraiment très homogène. En bas de tableau, Moulins contre 0 points, Romorantin et Chamalières ne comptent qu'un point et Angoulême et Bourges comptent 2 points donc pour les Angoumoisins. Un match hyper important à Moulins la semaine prochaine. Moulins qui pour l'instant n'y arrive toujours pas donc on espère que pour la CFC ce sera un déclic et la première victoire, sachant que la CFC recevra derrière Vierzon, qui est l'un des promus de la poule. Toujours en football, il y avait un match, le dernier match amical de l'AJ Spayo, en D1 féminine. L'AJ Spayo qui jouait contre Dijon, il me semble que c'était à Vichy. Et donc, Dijon l'a emporté 3-2. Malgré tout, c'est quand même une campagne positive hein, pour l'AJ Spayo qui part cette année avec un nouveau coach, Stéphane Guigo. Et l'AJ Spayo qui a gagné beaucoup de matchs, hein, ils ont battu notamment Isère, la Real Sociedad, ils ont battu également Toulouse, ils se sont inclinés de peu contre Bordeaux et contre Dijon, donc c'est vraiment encourageant pour le début, avec en plus un début de championnat qui sera compliqué, hein, puisque Soyo se déplacera à Paris et à Lyon, donc un début de saison dantesque pour Soyo, et d'ailleurs vendredi prochain, il y aura le déplacement de Soyo à Saint-Germain-en-Laye pour jouer contre le Paris Saint-Germain, donc on vous comptera ça la semaine prochaine. Il y avait la Coupe de France masculine de football, on jouait le deuxième tour de cette Coupe de France, on rappelle que l'objectif majeur des clubs amateurs hein, c'est d'arriver au quatrième tour pour avoir les maillots officiels de la compétition et donc on avait grosso modo une vingtaine de Charentais en lice ce week-end. Alors je vais pas donner le résultat complet de tous les matchs mais je vais donner au moins les qualifiés qui sont au nombre de 16, voire 17, parce que le résultat de Jarnac, qui se déplaçait du côté de Périgny, contre une équipe de 3e division district, n'a pas été noté sur le site de la Ligue. On peut supposer que Jarnac s'est qualifié, mais n'ayant pas le score, je ne vais pas l'affirmer à 100%. En tout cas, donc il y a 16 qualifiés pour sûr, donc avec les qualifications de Mornac, de Vindel, de Sireuil qui fait l'exploit du week-end en battant Royan-Vaux, une équipe de Régional 1. Les qualifications également de Ruffec, de l'Alliance 3B, dans un match à Moutier hyper serré, puis entre plein de joueurs qui se connaissaient entre eux. Soyo est également passé, Chasseneuil est passé, Chasseneuil qui sera le petit poussé et Charentais de ce troisième tour de Coupe de France. Mansle est passé, Charente-Limousine également. Les qualifications enfin de Pimoyen, de Cognac, de Leroy, de Merpin, de La Roche-Rivière au Pénau, de Bélair également à l'issue de la séance de tir au but et enfin de Verdille. Donc tous ces clubs disputeront le troisième tour donc avec Jarnac s'ils se sont qualifiés. Du côté Charentais, on va notamment parler de la belle victoire des filles de la CFC, 10-0 contre Rochefort. On a aussi la qualification de Mansle et de Cognac et de Saint-Michel. Donc bravo à ces quatre équipes qui iront du coup au deuxième tour de la Coupe de France féminine. On se rappelle l'an dernier qu'il y avait eu un beau derby entre Mansle et la CFC qui avait été vraiment loin en Coupe de France. Donc on va suivre leurs aventures avec intention. On va parler désormais de rugby avec la courte défaite du SA15 20-18. On l'a débriefé avec Fred dans le SA15 Magattitude juste avant, hein, le SA15 Magattitude qui sera retrouvé en podcast en milieu de semaine sur notre page Facebook. Et enfin, l'UCS jouait son premier match de national, donc avec la réception de Valence Romand, hein, qui a un gros morceau de la poule. Et malheureusement pour l'UCS, la première mi-temps a été très compliquée, hein, puisque Valence Romand menait à Cognac 23-5. C'était un match qui d'ailleurs qui se disputait à Saint-Jean-d'Angély. Et finalement, Cognac ramène un bonus défensif en s'inclinant de peu 23-20. Donc dommage pour l'UCS d'avoir raté cette première mi-temps, mais la réaction est plutôt positive et ben Cognac marque son premier point de la saison. Donc c'est plutôt positif si on prend le score à la mi-temps. Donc voilà, tout de suite on va retrouver Culture Sport, donc avec le best-of des interventions des différents clubs qui se sont succédés au micro d'Attitude lors du forum Sport Santé Environnement qui a lieu ce week-end. Et je tease d'ailleurs le premier invité de la saison, puisque la semaine prochaine nous recevrons Jérôme Di Tommaso pour faire le tour de l'actualité rugbystique charentais et nationale. Bonne écoute à tous, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h. Après les résultats du week-end en région présentés par Christian, place à Culture Sport et ce lundi soir, ce sont les meilleurs moments des rencontres, des interviews réalisées sur notre plateau ce week-end à l'occasion du Forum Sport Santé Environnement. La 13e édition a accueilli énormément d'invités ici à l'antenne d'Attitude. Tout à l'heure, nous allons parler nage avec un gros projet organisé par Enzo Bruno. Ce sera également l'occasion de parler d'escrime, de marche nordique, de karaté dans les prochaines minutes. Et parmi les nouveautés à découvrir ce week-end, c'était le Béhour. Explication avec Lucien dans un instant au micro de Christian et de Seb à l'occasion de ce forum sport santé environnement. Ce soir, ce sont les meilleurs moments dans Culture Sport.
On va parler sport de combat et sport de combat en armure avec des bonnes grosses armes. On accueille donc Lucien Antini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc de Angoulême Béhour. Le Béhour, c'est une discipline dont vous allez pouvoir nous parler, parce qu'au final, on la connaît un tout petit peu parce qu'on a préparé le sujet, mais sinon, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Bah, déjà, en fait, le Béhour, la particularité de ce sport-là, c'est que c'est un sport de combat qui se pratique en armure et en plus de ça, qui est en équipe. Donc, on se retrouve sur quelque chose qui est assez inédit. Pour moi, un autre sport qui pourrait s'apparenter à ça, c'est le rugby. C'est assez proche.
D'accord.
Et c'est comme du rugby, plus du judo. Mais on porte des armures et souvent c'est le format le plus classique en compétition, c'est du 5 contre 5.
5 contre 5, c'est, ouais, c'est une manière de reproduire un peu des, la configuration bataille. Si ce n'est que, voilà, on en parlait tout à l'heure en antenne avec Christian, rien n'est chorégraphié, c'est vraiment du combat.
C'est vraiment du combat. Voilà. C'est vraiment du combat, on a une vraie préparation parce que on a à peu près 30 kilos de matériel qu'on porte sur nous. Et derrière, il faut être capable de faire chuter les adversaires sans chuter. Pour nous, parce que dès qu'on est au sol, on est éliminé. Et il faut tenir deux rounds. Et encore, des fois, il y a des égalités. Et ça peut s'étaler sur 5-6 rounds. Donc, on est sur des matchs qui font plus de 10 minutes. Ça, c'est fou.
Ouais, il faut certaines conditions physiques.
Et donc, les rounds, est-ce que c'est quand l'équipe complète est au sol ou il y a quand même un temps imparti et on prend finalement l'équipe qui est le plus de, entre guillemets, survivant pour gagner la manche ?
Eh bien, justement, il y a les deux, en fait. Ah. Parce que d'abord, le but premier, c'est de faire tomber l'équipe adverse au sol. Donc, c'est-à-dire que quand on a couché les 5 adversaires, on a gagné le round. Ou alors, si on fait une suprématie, c'est-à-dire que on est 3 de notre équipe encore debout et qu'en face, il n'y a plus qu'une seule personne debout. Là, le match s'arrête. Ou alors sinon, un round dure 5 minutes. Et pour gagner un combat, il faut gagner les deux rounds. Voilà.
D'accord. Et donc, le Béhour, c'est aussi connu sous le nom de full contact médiéval. Donc ça mêle au final deux choses. Le sport de combat et l'histoire.
Oui.
Complètement. J'imagine que la plupart des membres de votre club sont fans d'histoire et voire de sport de combat.
Mais en fait, on a différents profils. On a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'histoire et qui sont à la recherche un peu de sensations fortes et du coup vont aller vers le Béhour. Ou alors on a des gens qui aiment le sport de combat, qui aiment l'esprit d'équipe et qui vont se retrouver confrontés à l'historicité et on est obligé de s'y intéresser parce qu'en fait quand on confectionne notre kit de Béour, donc l'armure complète, déjà c'est du fait sur mesure, c'est des forgerons qui nous les fabriquent, on leur donne nos mesures, ça prend plusieurs mois pour être fabriqué, et il faut que ce soit cohérent historiquement, c'est-à-dire qu'on a un comité d'authenticité qui est rattaché à la Fédération Française de Béour, voire même à la Fédération Internationale HMBIA, et en fait on doit faire valider notre set par ce comité et montrer que tout notre kit est cohérent sur 30 années, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une brigandine qui a une protection de buste du 13e siècle et un casque du 16e siècle. Il y a un trop grand écart. Donc on doit faire des recherches en trouvant des sources et en prouvant que, voilà, moi, ma protection de main, elle date de 1380 parce qu'il y a une source d'une statue à l'église de Nuremberg en Allemagne où on voit ça et du coup j'ai le droit de le porter avec mon casque qui a une référence de 1395.
D'accord, et chacun peut se composer, on va dire, son kit du moment qu'il est validé. Après c'est les forgerons. Est-ce qu'on peut être amené aussi à bricoler soi-même ça?
Alors il y en a quelques-uns qui le font. En France on a un combattant breton qui carrément s'est fait sa propre armure.
D'accord.
Et voilà, il a une formation, il s'est beaucoup intéressé à ça et c'est énormément de temps. Voilà, c'est des mois de travail, il a une superbe armure, elle est vraiment magnifique. Nous après aussi on va chercher l'optimisation sportive, forcément c'est un sport, donc une armure c'est à peu près 30 kg de matériel, mais on va chercher à alléger les pièces, donc on va aller vers du titane par exemple, ce qui est un peu plus cher mais par contre plus léger.
Oui.
Par contre ça encaisse un peu moins les coups.
D'accord.
Donc en termes de rapport à la douleur, bah si on va être plus léger, il faut accepter que quand on va se faire toucher, bah ça va falloir serrer les dents, quoi.
Oui, en fait c'est un compromis à trouver entre la mobilité, parce que un peu comme Dark Vador dans Star Wars, quand on a une grosse armure c'est vraiment très compliqué de bouger, et à la fois aussi mais la mobilité pour justement toucher l'adversaire, mais aussi le fait de pouvoir encaisser les coups adverses, parce que bah, si on encaisse trop de coups forcément on va pas faire long feu entre
on va pas faire long feu. Après c'est là où comme je disais c'est un sport de combat mais d'équipe, et en fait comme au rugby on a des postes, on a des piliers, on a des centres, etc. Et donc par exemple les piliers qu'on appelle les bords de lice, ou voire les bords, nous on appelle ça comme ça, c'est les gens qui sont au bord de l'espace de combat qui s'appelle la lice, qui est une sorte de clôture en bois, et eux ils vont avoir un matériel très épais, beaucoup de pièces d'armure pour pouvoir justement bloquer l'avancée adverse, stopper les types, en choper un voire deux. Et voilà, ils vont avoir un jeu où ils vont venir engluer l'adversaire, etc. Alors que par exemple le centre, il va avoir un équipement beaucoup plus léger pour pouvoir être très mobile, courir dans tous les sens, arriver dans le dos des adversaires, leur faire des projections, des charges, etc. Ou alors on a par exemple mon poste qui est astier, donc moi je suis à la hache à deux mains avec un manche long qui fait à peu près 1m50, et moi je vais rôder dans l'espace de combat, éviter la lutte, etc. Et je vais chercher les failles d'armure, et dès que j'ai un camarade qui tient un adversaire, bam, je vais aller taper, et l'idée c'est de faire ce qu'on appelle le one shot one kill, c'est-à-dire qu'un coup est censé faire que l'adversaire est plié et tombe au sol à cause de soit la douleur, soit le fait que ça l'a piqué, et là mon pote peut faire tomber du coup plus facilement l'adversaire.
Mais justement, en parlant des armes et des techniques de combat, j'imagine que voilà, pour que ce soit légal, il faut que ce soit un petit peu réglementé. On a quand même donc des armes authentiques,
en acier, qui sont forgées, elles sont juste émoussées, et après aussi on a beaucoup de règles sur les armes et les armures. Et on a un comité d'arbitrage qui, avant chaque compétition, on va passer à peu près une heure à faire le check de matériel, c'est-à-dire qu'on doit faire la queue, on est tous avec nos armes, et elles se font valider en fonction des règles. Voilà, on a le droit à une certaine épaisseur d'acier, ils vérifient toutes les lames pour voir s'il n'y a pas de tranchant, s'il n'y a pas des petits coups qui pourraient blesser les gens à cause des frappes, des blessures graves, j'entends par là, parce que des blessures on en a,
il y en a forcément,
c'est un sport de contact. Mais donc tout est vraiment bien vérifié et bien cadré, et donc toutes nos armes elles sont validées par les arbitres, et on a un petit autocollant sur nos armes, donc les gens qui passeront tout à l'heure au stand pourront voir, on en a amené une ou deux, et qui ont l'autocollant dessus, et donc l'autocollant ça veut dire que ça a été validé et qu'on a le droit de l'utiliser sur la compétition. Et à chaque compétition on ressort le même matériel,
un revier,
et
voilà.
Au final c'est comme au biathlon, parce qu'au biathlon on vérifie l'arme, le fusil avant de
c'est un sport, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, donc
Et les armes, c'est des armes personnalisées aussi, individuelles, ou finalement c'est des armes qu'on récupère sur le lieu de compétition et avec lesquelles on combat?
Voilà, alors en fait pour ce qui est des armes qu'on utilise, il y a plusieurs cas de figure. Alors soit déjà ça va dépendre du poste qu'on occupe. Par exemple, pour moi qui fais la hache à deux mains, je vais pas acheter ce qu'on appelle un fauchon, qui est une sorte de machette, ou une hache à une main, c'est pas intéressant pour moi. Par contre, nos runners, c'est ceux qui sont au centre, ils vont préférer avoir une petite hachette à une main, parce que dans les règles, on peut venir saisir le manche, ils peuvent arriver derrière, ils peuvent venir agripper, ils peuvent voilà. Et pour donc on achète nos armes, ou alors bah on a un forgeron dans l'équipe qui lui va faire le tour des brocantes et va acheter des fers de hache en lot, il va aller sur le bon coin, etc. Donc si jamais dans les auditeurs il y a des gens qui se font prendre des lots de fers de hache, bah c'est peut-être nous. Donc voilà, on les récupère, on les retape pour qu'elles puissent servir en compétition et nous faire gagner quoi.
Porter une armure, on sait que c'est lourd, vous l'avez dit, une trentaine de kilos environ pour un équipement. Vous faites de la préparation physique pendant les entraînements ou c'est conseillé d'en faire en parallèle ?
En fait, on a les deux. Au début, quand on recrute des nouvelles personnes, donc là, on a la rentrée là en septembre, le 19 septembre, on passe à peu près 3 mois à s'orienter sur la préparation physique, les bases de la lutte, des bases de judo et quelques notions de combat en 1 contre 1 avant de passer sur du matériel plus lourd et vraiment des trucs très 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 typique du Béhour, comment on travaille en 2 contre 1, etc. Donc ouais, il y a une préparation physique. Nous, on est à 3 entraînements par semaine de club. Et à côté, ce qu'on demande, c'est que chacun ait une pratique. Alors souvent, on va aller à la salle pour optimiser un peu le corps. Il y en a certains qui vont aller faire du crossfit. Il y en a qui vont carrément faire d'autres sports de combat à côté.
D'accord.
Donc ouais, ça demande une bonne prépa parce que 30 kilos de matériel. Les tournois, c'est sur une journée, voire 2 jours. Et on a à peu près, en moyenne, 8 combats par jour. Donc sachant qu'un combat peut durer maximum 10 minutes. Donc il faut qu'on soit vraiment prêt à ça parce que il y a aussi le stress comme dans tout sport. Quand on commence une compétition, on a envie de gagner. Donc on a un peu les foies au début parce qu'il n'y a pas de différence de catégorie dans le Béhour. Donc on peut se retrouver face à l'équipe championne de France alors qu'on débute. Voilà. Moi, la première fois que je suis rentré en lice en 2017, j'étais contre les champions de France. C'était la toute première fois que je portais une armure. J'étais pas prêt physiquement, j'étais pas prêt dans la technique. On m'a juste... En fait, il y avait un gars qui était blessé dans l'équipe et moi j'étais là en tant qu'écuyer. Et on m'a dit écoute, il y a une armure dispo, tu la mets et tu combats. J'ai fait bon, d'accord.
Au moins, t'es rentré dans le grand bain directement.
Oui, j'ai pris un KO. Voilà. D'accord, je me suis relevé, j'ai fait allez, c'est super, je signe et voilà.
Ok, ça marche.
Ah, ouais.
Côté info pratique maintenant, du coup, où est-ce que vous vous entraînez? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre?
Alors, déjà, si les gens qui sont intéressés, on a une page Facebook et une page Instagram.
Oui.
Voilà.
Et quelle
ça. Donc Angoulême Béhour. Voilà.
Angoulême Béhour. Donc Béhour qui s'écrit B-E-H-O-U-R-D.
Exact. Et ensuite, donc nous, on s'entraîne les lundis et les jeudis au dojo de Tapona. Et après, on fait un autre entraînement les week-ends, mais qui sont plus fermés, on va dire. Ça, c'est vraiment pour les compétiteurs. On a un espace qui est la lice, qui est l'espace de combat. On a ça dans un jardin d'un des gars de l'équipe. Et c'est là où on entraîne l'équipe, on se prépare. Là, on a la Coupe de France dans 2 semaines.
D'accord.
À Bordeaux, du côté de Cadillac. Et donc là, voilà, c'est... Les nouveaux, ils vont pouvoir venir, regarder un peu, etc. Mais là, c'est vraiment focus sur l'équipe compétitive, la prépa pour toujours monter dans le classement. On est une équipe débutante, mais on se veut manger des places le plus possible et monter dans le Béhour français comme on peut. Donc on se défonce, voilà quoi.
Donc ça veut dire que dans votre équipe de Béhour, il y a un 5 majeur avec donc 5 titulaires chevronnés. Et après, il y a potentiellement ceux qui peuvent vous renforcer ou prendre la relève qui se prépare.
Voilà, en fait, une équipe, c'est 8 personnes. C'est 5 dans la liste, mais on a les remplaçants. Oui. Donc on va tourner, on a le droit entre les rounds de
donc
tourner.
Ça veut dire que pendant le
round qui se déroule, mais sur le match, voilà. Round 1, on a 5 types. Et round 2, on peut faire
le droit de faire des changements.
Voilà, c'est
d'accord,
ça.
Okay.
Après, on a ce qu'on appelle les commandos, ça c'est quand on part à 5. Donc on a personne, on s'appuie combat dans la journée et c'est très très dur. Ça c'est vraiment très éprouvant.
Justement, comment on définit qui va combattre? Est-ce que j'imagine que ça c'est quand même un sport de niche, donc au final vous connaissez à peu près toutes les équipes et tous les combattants. Est-ce que au final c'est une stratégie que vous avez à l'avance, que vous avez préparée à l'entraînement, ou est-ce qu'au final c'est vous allez vous adapter aux forces et aux faiblesses d'équipe d'en face?
Alors, comme on est une équipe débutante, pour le moment on a peu d'expérience de compétition. Voilà, moi j'ai commencé en 2017, j'ai fait 3 ans de Béhour dans un autre club, j'ai été pris en équipe de France en 2019, donc j'ai fait les mondiaux en Ukraine. Donc voilà, j'accumule l'expérience à ce niveau-là. Par contre, Angoulême, il y a eu le Covid, donc très difficile de développer le club. Et pareil, le Béhour français est un peu mort ces derniers temps parce que peu de compétitions à cause des restrictions que tout le monde connaît. Là, ça y est, ça redémarre enfin. Et donc du coup, je parle de Béhour et je me perds et j'ai oublié la question.
Non, est-ce que la stratégie vous l'adaptez
la stratégie, comme pour le moment on est un club plutôt jeune, on est en train de la mettre en place, voir un peu en fonction des membres qu'on a. Mais l'idée, c'est on a des stratégies différentes et variées parce que c'est un sport de combat et on peut pas avoir qu'une seule ligne directrice, on en a plusieurs qu'on adapte. Et quand on va à une compétition, que les poules ont été tirées, qu'on sait qui on va affronter. Là, on regarde en boucle les matchs des adversaires qu'on va affronter, on analyse comment ils fonctionnent et on se fait souvent une à deux soirées où on regarde les matchs et on fait, ok, d'accord, il y a lui qui fait comme ça, face à cette équipe. Par exemple, là, on avait une équipe, les Bannis de la Grenouille, qui est une très bonne équipe, ils ont un très très bon capitaine qui est très dangereux. Et en fait, on a observé comment ils fonctionnaient et on s'est dit, ok, d'accord, eux, ce qu'ils cherchent, comme c'est des bons judokas, ils cherchent pas à travailler avec le bord de la liste, ils cherchent à travailler au centre. Donc ils vont forcément essayer de nous faire décoller. Et ben nous, on va pas se décoller, on va les engluer et comme ça, ils pourront pas appliquer leur méthode de judo. Et on a gagné deux fois contre eux, du coup, parce qu'on a analysé, on a pris le temps de regarder et on s'est adapté à eux. Voilà.
Et est-ce que vous filmez vos matchs? Parce que beaucoup de sportifs fonctionnent avec la vidéo, pour notamment pour revoir leurs matchs. Est-ce que ça fonctionne pareil pour vous?
Ouais. Voilà, alors pour les matchs, moi ce que je fais, c'est que je regarde tous les matchs et je fais des statistiques pour chaque combattant. Après, je dis, bah voilà, t'es tombé tant de fois, t'as un ratio de 44% de faire tomber sur un round, etc. Donc on regarde les vidéos, on les analyse, on fait des retours sur chaque combattant, on réaiguille après le travail qu'on fait du coup les week-ends, vu que là c'est vraiment pour l'équipe compétitive. Donc voilà, là on a un combattant qui a du mal avec ses appuis, bah on prend le temps, on va prendre le temps de dire, bon bah on va corriger ça, on va s'orienter un peu plus sur le travail en bord de lisse, etc. Tu vas travailler tes appuis. Donc ouais, et on regarde les matchs qui sont diffusés toujours, toutes les compétitions de toute façon sont diffusées sur la page Facebook de la Fédération Française de BO.
Ah oui, d'accord.
Ils ont aussi une page YouTube avec tous les matchs, donc c'est bien fait, il y a des playlists pour chaque compétition et voilà, donc c'est possible.
Donc au final, au tirage au sort, on peut même aller regarder sur YouTube les vidéos des équipes adverses.
C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça on peut faire les analyses où on fait une sélection de vidéos, on regarde les matchs forts. Et pareil aussi pour évoluer, on regarde les grosses équipes. Par exemple, là on a l'équipe monégasque qui commence à arriver dans elle est soit top 1, top 2, voilà, donc on est vraiment dans les 3 meilleures équipes françaises. Et par rapport à mon rôle qui est astier à la hache à deux mains, et bah, moi je regarde tous leurs matchs parce qu'ils ont des très très bons astiers et on analyse leur méthode. On fait, ah d'accord, ok, ils travaillent comme ça, ils se positionnent comme ça, ils travaillent en binôme de telle manière. Et voilà, et on cherche à mettre en application, à comprendre comment ça fonctionne. Et du coup aussi, c'est quand on se retrouve à se battre contre eux, on sait plus ou moins comment réagir, même si le niveau est vraiment supérieur et qu'on, pour le moment, on les a affrontés là appartenait au début août. Bon, on s'est fait rouler dessus, hein. C'est un niveau qui est... Mais bon, les gars, voilà, ils sont bien rodés. Bon, on espère qu'on va leur la prochaine fois, peut-être pas, mais d'ici un ou deux ans, c'est ce qu'on vise, quoi. C'est arriver dans le top 5, voilà, ça c'est l'objectif. Mais on prend le temps, c'est difficile.
Et pour en revenir au Béour, quelle est finalement la jeunesse de ce sport et est-ce qu'il est hyper... Est-ce qu'il est populaire en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs?
Alors, la France, c'est quand même un des pays les... même majeur du Béour. On a la Russie, on a l'Ukraine et pour moi on a la France clairement. Il y a une trentaine de clubs aujourd'hui en France, c'est énorme. On a la chance d'avoir une compétition par mois de Béour, donc ça c'est pareil, c'est assez génial. Et on a énormément de très très bons combattants sur le territoire français aussi qui sont connus à l'international. On a un Russe par exemple qui fait des vidéos et il fait par exemple le top 10 des meilleurs runners, etc. Et il y a toujours des Français dans ces tops, quoi.
Ouais, puis c'est vrai qu'en plus une plateforme comme YouTube, c'est hyper vendeur, hyper jeune, hyper tendance, donc ça permet aussi de faire connaître la discipline.
Tout à fait. On a même maintenant on a Twitch qui prend un peu le relais de YouTube et on a
d'ailleurs le club de créer peut-être potentiellement une page YouTube dans quelques
On a déjà une page YouTube, mais on met seulement tous nos combats dessus. Voilà, dès qu'on a fait une compétition, on télécharge les vidéos et on les poste là-dessus pour l'instant. Après, on voulait aussi sensibiliser les gens un peu au Béour. On voulait faire des vidéos explicatives très courtes de 1 minute 1 minute 30 à chaque fois avec un point de règle, un aspect du Béour. Mais en fait, à mettre en place, c'est un travail, vraiment. Et on a déjà fait un travail en plus de gérer le club. Et ça, c'est pas pour l'instant, non, mais c'est un des projets qu'on a parce qu'on a envie que les gens s'intéressent au Béour un maximum.
Et puis, tu parlais tout à l'heure de Russie, d'Ukraine. Ce qui est hyper intéressant, au final, c'est l'aspect aussi médiéval. C'est-à-dire que les armures vont être différentes parce que l'histoire de Russie et l'histoire de France, c'est forcément une histoire qui est différente. Donc, il va y avoir des armures complètement différentes d'un pays à l'autre. J'imagine que c'est aussi hyper enrichissant d'échanger à l'international avec des passionnés d'histoire et
de pouvoir. Ça c'est super. Ça c'est super. Après, tout à l'heure je parlais d'optimisation et en fait il y a des kits qui sont optimisés. En fait maintenant même les mecs qui viennent par exemple de Norvège ou ce genre de pays qui ont vraiment une culture dans l'armure qui est très différente de la nôtre.
Oui, la culture viking.
Exact. Et ils vont quand même porter des sets très européens parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus optimisé dans le sport. C'est là où on cherche à s'alléger, etc., à mieux respirer, à mieux voir. Et en fait, les armures mongoles, les armures russes, ne sont pas très adaptés à la pratique du bébé en fait. Donc on en voit de temps en temps parce que bah il y en a qui aiment vraiment ça et qui décident de combattre avec. Mais quand on est à la recherche vraiment de l'optimisation sportive, on va aller vers de l'armure européenne parce que c'est vraiment le top quoi.
Et donc les combattants sont forcément en armure, les arbitres aussi ont un uniforme particulier. Alors, est-ce que le public ouais. aussi est
en armure? Non.
Pas en armure, mais en tout cas en ouais. habit médiéval.
Alors ouais, ça dépend. Bah en fait, les compétitions de Béour, ça, alors des fois il y en a qui sont greffés à des fêtes médiévales, mais comme ça se veut être un sport, bah des fois ça se passe en gymnase, des fois ça se passe sur des lieux historiques. Bah par exemple à Parthenay, on était dans les ruines du château, donc ça c'était assez génial. Il y a Carcassonne aussi, le tournoi de Carcassonne qui est pour moi un des meilleurs tournois du fait que bah déjà on est dans la ville de Carcassonne et c'est assez incroyable de se battre
avec
là.
Les remparts et tout.
Voilà. Et en plus il y a un format où c'est en round robin, donc il y a pas de système de poule, c'est toutes les équipes présentes affrontent toutes les équipes. Okay. Donc ça nous fait à peu près je crois entre 16 et 18 matchs sur le week-end. C'est ouais, ça c'est ouais, super.
C'est assez hardcore du coup physiquement.
Ouais.
On peut vraiment
ouais.
dire que c'est une battle royale.
Ah ouais ouais. Mmh. Bah d'ailleurs en parlant de battle royale, on a le 5 contre 5 mais j'ai pas parlé du 12 contre 12 et du 30 contre 30.
Ah oui.
Voilà, et pour les 10 ans de la fédération de Béour, parce que c'est un sport qui est jeune hein, il a seulement 10 ans à peu près. Mmh. Et ben il y a eu du 150 contre 150. Voilà, au Mondiaux en Serbie. Okay. Et c'était alors à regarder bon, c'est un peu lent parce que bah 150 bonhommes contre 150 bonhommes, voilà, ça prend du temps avant de se coucher. Mmh. Mais par contre à vivre, tous mes potes qui étaient m'ont dit c'est fou. C'est
peut, d'ailleurs, est-ce qu'on peut considérer ça comme une reconstitution historique un peu ou pas du tout?
Bah ouais, en tout cas pour le 150, oui. Oui oui, on est vraiment à mon avis les batailles vraiment comme elles étaient à l'époque médiévale. Je pense que le 150 s'en rapproche pas mal. Après en Béour, on n'a pas le droit à les stocks, donc les coups plantés parce qu'on peut blesser.
Oui.
C'est que des coups en latéral etc. Oui. Donc c'est on retire cet aspect-là et donc toutes les techniques qui servent à dévier les coups, voilà, ça on le retire du Béour, donc on n'est pas à 100% dans une reconstitution historique, mais je pense que le 150 en tout cas c'est ce qui devait se rapprocher le plus des batailles.
Et justement ouais, je voulais rebondir sur la question de Christian, si jamais mettons une municipalité, des historiens ou même un tournage de cinéma vous appeler pour faire une reconstitution de bataille, vous seriez à dispo?
Ah carrément, nous on a déjà été contacté pour une série France 3 qui nous demandait juste en fait du prêt de matériel. Mmh. Donc voilà, ça on peut le faire. Après ça s'est pas passé parce que bah comme chacun a son kit et son, et eux ils voulaient vraiment des casques identiques et ça,
ah oui.
On n'a pas, voilà.
Okay.
Donc tant pis, mais oui oui, ça on se prête au jeu à fond, ça nous permet de bah, faire vivre un peu l'assaut, de développer le sport, mais voilà, en tout cas nous la ligne directrice on va dire c'est la compétition, mais après derrière voilà, on a fait la fête médiévale de la Rochefoucauld, bah, la semaine prochaine on est à la fête médiévale de la Couronne.
Oui, avec la Couronne, une histoire de cœur, on l'annonce d'ailleurs, voilà. Dès aujourd'hui sur Attitude on annonce votre présence, donc ce sera quoi, des démonstrations, comment ça ouais. va se dérouler?
Voilà, on va faire des démonstrations, le samedi on a deux démonstrations et le dimanche on en a trois. Donc là par exemple aujourd'hui pour des raisons de sécurité on peut pas utiliser les armes qu'on utilise en Béour. Mmh. Et surtout bah, y a beaucoup d'associations sportives ici et on a que 15 minutes pour présenter le sport, ce qui est très très court. Mmh. Et surtout on n'a pas réussi à mobiliser, voilà, on va pas faire venir faire du 4 contre 4 ou du 5 contre 5 ici, c'est pas c'est
ah
pas
dommage.
Eh ouais, dommage. Mmh.
Ah, parce mais... que Steph il était candidat.
Ah ouais. Bah, après on a des armures, on peut vous en mettre une, il n'y a pas de problème.
Oui, j'imagine. Ouais.
Mais par contre voilà, la semaine prochaine à la fête médiévale de la Couronne, mmh. là on va faire du 4 contre 4.
D'accord.
Voilà. Et on fera des démonstrations de combat avec les coups portés. Alors on fera attention parce que la semaine juste après on a la Coupe de France, donc on va éviter les blessures. Par exemple moi je vais pas avoir la hache à deux mains parce que même quand on veut pas faire mal et qu'on tape pas fort, ça fait quand même mal. Voilà, moi j'ai bloqué l'épaule d'un pote sans faire exprès, ou j'ai mis KO quelqu'un sans faire exprès alors que je voulais pas taper fort, mais voilà, c'est très très efficace, donc on a dit pour la démonstration, désolé pour le public qui voulait voir des gros coups de hache à deux mains dans les
têtes. Il faudra donc aller à la Couronne la semaine prochaine.
Voilà, et même bah, la Couronne, non, on ne sera pas les haches à deux mains, mais par contre, faudra aller à la Coupe de France du côté de Cadillac. Où là, il y aura une vingtaine d'équipes attendues sur deux jours. Voilà, donc ça va être un gros événement.
Et au niveau du matériel, quelle est l'espérance de vie finalement d'une armure et d'une épée potentiellement?
Ah, ça dépend de qui on rencontre.
Ça dépend des coups qu'on prend.
Ouais, ouais, ouais. Mais alors, après chaque tournoi, on doit faire des réparations. Ça, c'est sûr, il y a toujours un rivet qui pète, un cuir qui lâche.
Ouais.
Après en soi voilà, moi mon casque que j'avais, mon premier casque, je l'ai utilisé pendant 3 ans et je l'ai changé parce qu'il n'était pas assez optimisé pour le sport, mais j'aurais pu l'utiliser encore, mais c'est juste pour des raisons d'optimisation, j'ai changé, j'ai acheté un nouveau casque. Et pour des raisons d'optimisation, encore une fois, je me dis, c'est pas encore parfait. Là, ça y est, j'ai un nouveau casque qui se fait faire en Russie, là, en ce moment. Mm-hmm. Et voilà, donc là, le casque que j'ai, qui est vraiment très très bien fait, qui a un super bel ouvrage, bah voilà, je vais le changer, alors que je peux l'utiliser encore, à mon avis, pendant peut-être 5-10 ans sans aucun souci. Par contre, il y a d'autres pièces plus fragiles. Souvent, ça va être les protections au niveau des épaules, parce qu'on prend beaucoup de coups à ce niveau-là, ouais, qui elles vont s'user un peu plus. Donc, mais bon, on a des gens qui savent réparer, on a des petits forgerons, etc., dans l'équipe, et on leur file le matos, et nous aussi, on apprend avec eux. On doit apprendre de façon à rifter ce genre de truc-là.
Et du coup, les forgerons font aussi partie du club en tant que combattant?
Ouais, alors celui qu'on a en tout cas, c'est pas un forgeron, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la coutellerie en tant qu'amateur, mmh, et du coup qui chez lui a récupéré le matériel de son grand-père en fait, et de forge, et voilà, il a son enclume, tout ça, et il retape des pièces. Après sinon en France, on a des vrais forgerons, mais le souci c'est que malheureusement c'est très difficile pour nous de commander une armure en France, parce que bah, les charges sont pas les mêmes comparées aux pays d'Europe de l'Est. Par exemple, là, moi je commande en Russie ou en Pologne. Ou en Ukraine.
Parce qu'une armure, j'imagine que c'est assez variable, mais combien grosso modo
Alors pour moi, une bonne armure bien optimisée, on est à peu près sur du 3000 euros. Voilà. Après, pour moi, c'est du 3000 euros. Comme en fait, ça se fait sur plusieurs mois, bah, en vrai, ça peut prendre un an pour que l'armure arrive vraiment.
C'est étalé
sur l'année à peu près. Ouais.
Et puis c'est cher aussi parce que c'est sur mesure au final.
C'est du sur mesure, c'est fait main, c'est pas usiné. Donc voilà, c'est des
travail sur pièces.
Ah ouais, ouais, c'est ça qui est génial. Après, voilà, moi je trouve que 3000 euros pour un set d'armure qui va nous tenir pendant peut-être 5-10 ans, et puis pareil, hein, les pièces ça se revend. Voilà, j'ai revendu une protection, je l'ai vendue à quelqu'un du club, donc du coup je lui ai fait un prix, mais je pourrais presque la revendre au prix d'achat. Et voilà, et racheter après une autre pièce un peu plus optimisée, quasiment au même prix. Après ça tourne en fait. Voilà.
Est-ce que potentiellement, donc Seb tout à l'heure parlait de tournage télé, etc., etc. Ouais. Est-ce que potentiellement le club aussi a dans l'idée de faire des portes ouvertes où finalement vous allez exposer vos armures au grand public?
Alors on fait des initiations l'été. Après, comme pour l'instant on n'a pas de salle vraiment attitrée, on a le dojo de Tapona où je remercie énormément le judo club d'ailleurs de Tapona de nous avoir permis d'avoir deux créneaux, parce que ça a permis de maintenir le club et c'est hyper important pour nous. Mais actuellement c'est un peu difficile, on va dire, d'accueillir des gens un peu n'importe quand et de faire des sortes de portes ouvertes. Par contre voilà, l'été on fait des initiations BO, et puis après les entraînements de BO sont ouverts vraiment à tous. On s'en fiche du niveau physique, on s'en fiche de la technique, on est là de façon pour former des gens. Donc moi je pars du principe qu'on part de zéro. Là pendant 3 mois jusqu'à quasiment décembre, ça va être de la préparation physique, des notions de lutte, etc. Voilà, nous on prend des gens qui arrivent, qui sont tout maigrelés, qui tiennent pas trop sur leurs jambes, qui ont un peu peur, etc. On les chope par la peau du cou, on fait toi.
C'est bon, j'ai mes chances alors.
Exactement, ouais.
C'est bien possible d'un coup.
Et ça donne des super aventures humaines aussi, quoi. Enfin là, on a un gars par exemple, Félix. Moi, je trouvais ça super beau. C'est un étudiant qui vivait à La Rochelle, qui faisait les allers-retours le jeudi pour venir faire 2 heures d'entraînement, donc 4 heures de route pour 2 heures d'entraînement. Au début, il est arrivé beaucoup de faiblesses physiques, peur de la douleur, etc. Et là, on l'a emmené à Parthenay en compétition, donc quasiment un an plus tard. Et le mec, il a tenu, il a fait le taf, il a été super brave, il voulait tout le temps rentrer en lice, même contre les grosses équipes. Et là, je me dis, bon, bah, ça, c'est beau, quoi. Et ça, c'est le sport. Et c'est magnifique.
Et justement, moi, j'ai une question sur les faiblesses physiques. Si on a des séquelles physiques, est-ce qu'on peut quand même, du moment qu'on a un certificat médical, ça va, on peut être pris en charge?
Certificat médical, mais après, ça dépend des séquelles physiques. Si quelqu'un a des problèmes de dos, bah, non. On prend des coups dans le dos, même si on met une dorsale quand même sous l'armure, hein, pour bien se protéger. Mais ça va être difficile. Et surtout, en fait, comme on est une équipe compétitive, il faut qu'on puisse compter sur nos gars. Donc, si on a quelqu'un, et en fait, chaque compétition, c'est ah ouais, non, désolé, j'ai mes douleurs qui reviennent, etc. Bon, ok, on peut pas compter sur toi en fait. Et ça, c'est pas possible, on peut pas se permettre.
Moi, j'ai une dernière question, oui, potentiellement.
Ouais, je t'en prie.
Est-ce que potentiellement le fait d'avoir un gros parc d'attractions en Vendée qui fait des reconstitutions historiques, ça peut justement donner la vocation à certaines personnes de vous rejoindre?
Alors, peut-être, mais comme le béour c'est quand même un sport de contact et
c'est vraiment très différent.
Voilà, c'est ça. C'est chacun a ses raisons de passer les portes du club et de se dire je me lance dans l'aventure. On a des gens qui ont essayé, qui sont restés même voire un an et qui ont dit au bout d'un moment désolé, j'arrête parce qu'en fait ça me convient pas. On est une équipe compétitive, on demande quand même 3 entraînements d'équipe plus les entraînements à côté, et pour plusieurs personnes souvent c'est un engagement plus l'achat du matériel, l'armure. Les déplacements en compétition. Là, on a une combattante par exemple qui part en Allemagne dans 2 semaines. Donc, elle s'est arrangée, mais elle va devoir prendre l'avion pour aller là-bas. Et tout ça, en fait, c'est à nos frais. Aujourd'hui, l'association, elle est naissante et on n'a pas les moyens de payer les déplacements, ce genre de choses.
En termes de déplacement, pour conclure, des armures, c'est lourd, c'est parfois encombrant même avec les épées. Comment on se déplace? Est-ce que vous avez vous déplacez en minibus ou
Ouais, alors déjà on a tous des gros sacs. Moi j'ai un sac de 180 litres qui est renforcé, dans lequel boum je mets mon armure. Et après pour les déplacements, alors pour l'instant c'est chacun prend sa voiture. Moi j'ai acheté un gros Scénic 7 places histoire de pouvoir mettre au moins 4 sacs d'armure dedans. Mais voilà, pour le moment c'est avec nos véhicules, et à l'avenir on aimerait bien trouver un véhicule 9 places pour pouvoir se déplacer. Par exemple, on a une compétition dans le Var en octobre, donc c'est 9 heures de route, et l'idée c'est on va louer un 9 places, et puis on mettra toutes les armures dedans, tous les combattants et combattantes, et parce qu'on a des combattantes aussi. Ah oui, alors ça c'est hyper important, on a une équipe féminine, et surtout, alors pour l'instant on forme l'équipe féminine, et on a que 2 combattantes actuellement qui combattent dans l'équipe bretonne, mais on est très très fiers de nos combattantes parce que pour l'instant elles ont été invaincues sur le sol français. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des compétitions avec du féminin, des fois c'était juste du 2 contre 2, bah nos nanas à chaque fois ont gagné. Amandine a eu lors de sa première compétition officielle le titre de championne de la Lys, donc félicitations à elle. Et la semaine dernière c'est Louise qui a eu le même titre, championne de la Lys. Elle s'est illustrée parmi les autres combattantes qui étaient présentes. Il y avait même des Anglaises. On est très fiers de nos nanas. Et cette année, on a vraiment mis le point fort là-dessus en termes de recrutement. On a fait une initiation exclusivement féminine parce qu'on cherche à développer ce sport-là. On a envie qu'un maximum de gens s'intéressent à ce sport, et on a envie d'avoir une équipe féminine qui est solide et reconnue, quoi. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti. On est fiers d'elle.
Et puis, tu parlais de l'équipe de France tout à l'heure. J'imagine que de combattre pour la France, pour en équipe de France, ça doit être quelque chose.
Ça, c'est formidable. Bah oui.
Comment ça se passe? Il y a les hymnes nationaux. Comment ça se passe un match national? International.
En fait, comme un match classique de Béhour, en fait, au lieu d'avoir des clubs qui s'affrontent, c'est des équipes nationales. Voilà. Donc là, quand j'étais en Ukraine, je sais pas combien d'équipes il y avait. Je sais qu'on a affronté les Finlandais, il y avait les Autrichiens qu'on a affrontés, les Anglais, match, ça toujours, hein, France-Angleterre. Voilà.
Un remake de la guerre de 100 ans.
Ah, mais toujours, à chaque fois. De toute façon, dès qu'il y a les Anglais en face, en dehors de la liste, on est tous très potes. Il y a vraiment une super bonne ambiance. On est content de se voir. On demande comment ça va, la famille, etc. Par contre, une fois qu'on est dans la liste, il y a plus d'amitié. C'est terminé. Des fois, on se parle un peu quand même, hein, entre deux coups. On se dit 2-3 blagues, mais on est là. On est là pour gagner. Donc.
Et quand la victoire est au rendez-vous, est-ce que vous avez un cri de guerre ou quelque chose comme ça?
Alors nous, l'équipe Tala FR, on a repris la devise de la famille Taifer, qui est non quad sedoubi. Donc peu importe le nombre, ce que l'on veut savoir c'est où est l'affrontement. Donc voilà, nous on est vraiment dans cette démarche de on s'en fiche de qui on va avoir en face, nous ce qu'on veut c'est aller au combat. Donc le non quad sedoubi, c'est ce qu'on crie avant de lancer un match. Alors pas tout le temps parce que c'est redondant, mais souvent voilà, ça c'est notre cri
non quad sedoubi. Ah oui, c'est bon, ça.
Ah ouais. Voilà, ça c'est le truc qu'on s'est approprié, mais chaque équipe a son cri de guerre comme ça.
Lucien, à l'instant, sur Attitude pour l'association Béhour Angoulême. Ce lundi soir, ce sont les meilleurs moments des invités reçus ce week-end à l'occasion du Forum Sport Santé Environnement à l'Espace Cara. Nous allons changer de discipline. Parmi nos invités, Enzo Bruno, il a un handicap moteur, et il envisage de traverser la Manche en juin prochain. Il est venu nous parler de ce grand projet sur Attitude.
Bonjour Enzo.
Bonjour.
Alors Enzo, vous êtes déjà passé 2 fois dans la Charente Libre. Vous avez voulu vous lancer dans un défi, et justement, j'aimerais que vous nous en parliez, s'il vous plaît.
Alors oui, tout à fait. Je suis passé 2 fois dans la Charente Libre en juillet, plus précisément, où la Charente Libre, c'était déjà pour lancer le projet de la traversée de la Manche, qui aura lieu l'année prochaine, au mois de juin. Et au mois de juillet, j'ai fait un premier G. Donc j'ai parcouru 21 km en 9 heures, non-stop, au plan de Saint-Alex, donc de 8h du matin à 17h, où j'ai nagé toute la journée. Et en gros, le projet de l'association de la traversée de la Manche, ça sera de récolter des fonds pour une association charentaise d'enfants handicapés.
D'accord, donc qu'est-ce qui a motivé justement ce projet? Parce que traverser la Manche, c'est quand même pas rien, c'est quand même une sacrée performance. Qu'est-ce qui a motivé ce projet et cette association? Dites-nous tout.
Alors, ce qui a motivé ce projet de la traversée de la Manche, ça s'est passé en 2019. C'est la veille de mon opération du cœur, en fait. Je me suis fait opérer du cœur en 2019, opération à cœur ouverte, où j'ai des gros problèmes cardiaques. Et je me suis dit, si jamais je survis à cette opération, parce qu'une opération à cœur ouvert, si on arrête le cœur de battre, et c'est une machine cœur-poumon qui prend le relais. Mmh. Et ça pendant 7, 8, 9, 9 heures. Et le cœur ne peut ne pas reprendre.
D'accord, voilà, il y a toujours un risque, effectivement.
Et je me suis dit dans ma tête, c'est, si jamais je survis à cette opération, je nage plus pour moi, mais je nage pour les autres. Sachant que j'ai déjà eu plusieurs titres au niveau national.
D'accord, donc vous êtes quand même manager confirmé, vous faites ça depuis longtemps ?
Alors, je suis un des piliers du club des Antilopes, donc ça fait 21 ans que le club, que la section handisport existe, mm-hmm. Donc ça fait 21 ans que je nage.
21 ans que vous nagez, et du coup là donc vous êtes dans une préparation donc, pour quand même faire cet exploit qui sera donc l'année prochaine, c'est bien ça ?
Tout à fait, l'année prochaine, au mois de juin, l'année prochaine. Après là, c'est une grosse préparation qui est en vogue. Là, dans 3 semaines, donc le 16 septembre, je m'en vais à Compiègne pour faire la nuit de l'eau libre. Donc à Compiègne, tout simplement. Et c'est une course de 12 heures. Et le départ est à minuit. Donc minuit, midi, non-stop, sans interruption.
D'accord. Donc effectivement, chaque événement vous permet en plus de vous mettre un peu plus à niveau. Bon, vous l'abordez comment ? Évidemment, j'imagine que vous avez la niaque et que vous êtes déjà prêt mentalement. Niveau physique, ça, vous êtes plus dans l'entretien de ce que vous savez déjà faire ou vraiment dans l'idée d'avoir encore plus de performance ?
Alors, dans l'entretien de ce que je sais faire en natation, on ne peut pas parler comme ça parce que c'est vraiment tous les jours, on va chercher le détail qui va permettre de s'améliorer, mm-hmm. notamment en puissance de bras, notamment pour reposer le corps à chaque mouvement.
Oui.
Nager en mer également, ça prend tout le temps parce que la mer est changeante tous les jours. On ne sait jamais comment l'aborder, tout ça. Et en préparation physique, j'ai mon préparateur qui me suit déjà, ça fait un an.
D'accord.
Où je m'entraîne tous les jours. Là, en gros, mon programme, c'est le matin, dès 8h, 8h30, je suis au plan de Tataïex où je nage pendant 1 à 2 heures. Mm-hmm. Et je renage le soir également. Et en parallèle, je m'entraîne 1 heure par jour au muscu. Tous les jours.
Quand on se lance dans un tel défi, est-ce qu'on regarde la météo ? Parce qu'au final, vous disiez tout à l'heure que les conditions de mer étaient changeantes. Est-ce qu'on regarde la météo et on se dit potentiellement qu'on peut reporter d'une journée à l'autre le départ ? Est-ce que c'est hyper important au final
Pour la traversée ?
Ouais.
Alors, la traversée, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est pas moi qui décide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 associations anglaises qui le font. Qui font ce projet, cette traversée. Moi, j'ai la chance, en fait, c'est que j'ai le même bateau qu'une certaine Marion Joffre. Je sais pas si vous avez entendu parler récemment, celle qui a traversé la Manche et qui a battu le record des femmes. Donc, on a le même bateau. Donc, j'ai pu avoir quelques renseignements de comment il procède. Et en gros, lui, comment il procède, c'est simple. C'est il attend la dernière minute et le dernier moment pour nous lancer, en fait. C'est elle a su la veille à 19h qu'elle partait le lendemain à 7h du matin.
D'accord, c'est vraiment de l'incertitude jusqu'au bout.
Exactement.
Et on est obligé d'être au taquet, j'allais dire, vraiment prêt à partir à n'importe quel moment, parce qu'on sait qu'on peut partir à n'importe quel moment en fait.
Ah oui, on peut très bien partir 2 jours. Comme c'est pour ça que je me suis entraîné au plan d'eau 2 jours justement. Mm-hmm. Mais on peut très bien partir 2 nuits ou en début de soirée. Donc c'est pour ça que également je pars à Compiègne nager 2 nuits. Pour m'entraîner à nager en fait dans le noir obscur en fait, où on voit rien.
Et justement, quand on nage de nuit, est-ce que finalement on a une perte de repère de ce qui nous entoure au final ? Enfin, à quoi on se réfère au final ? Parce que on a plus la vue presque.
Alors ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai jamais nagé de nuit. Ça sera ma première expérience.
C'est quelque chose que vous appréhendez ?
Pas du tout, c'est quelque chose que j'attends avec impatience justement. Parce que déjà, pour savoir si je suis capable de nager de nuit, la sensation que ça fait, parce que on voit rien, enfin je pense. Je sais juste qu'on sera éclairé de petites lumières scintillantes sur nous. Et c'est tout.
C'est juste pour être repérable en fait, parce que justement j'ai posé la question, vous allez traverser, mais il y aura forcément, enfin j'imagine, une équipe qui va au moins pouvoir constater ce que vous faites, donc forcément vous suivre de plus ou moins loin, comment ça va se passer ?
Alors, c'est moi en fait qui constitue mon équipe.
D'accord.
Mon équipe est déjà constituée à 99%, donc plus qu'une personne. Je m'entoure de gens très fiables, en qui je peux avoir confiance à 100%, mm-hmm. donc mon préparateur physique. Que je salue vraiment, c'est BG Coaching, c'est Baptiste Grelier. Il fait un travail phénoménal avec moi, excellent. Donc lui, il sera là vraiment pour m'épauler du début à la fin. Déjà pour ma préparation juste avant la traversée pour l'échauffement. Je pars en compagnie de ma masseuse personnelle. Mmh. Où elle, en fait, elle va faire office un peu de tout ce qui est étirement et préparation.
D'accord.
Parce que moi, je vais nager sans les jambes. Donc ça sera vraiment préparation au niveau des bras. Je pars d'un mètre, avec un maître nageur. Parce qu'il faut avoir quelqu'un qui peut secourir à n'importe quel moment.
Mmh. Bien sûr. Paré à l'imprévu.
Exactement, tout à fait. Donc voilà, je m'entoure vraiment de gens de confiance à qui je peux avoir confiance les yeux fermés, en fait. Mmh.
Parce que c'est vrai que quand on se lance dans une telle traversée, on parle souvent de nage économique. Parce que de la nage en eau libre, c'est quelque chose qui est vachement différent par rapport à la nage en bassin. Comment justement techniquement on a cette nage économique?
On s'adapte déjà si la mer elle est assez calme, si la mer elle est agitée, on va s'adapter au maximum pour justement essayer de nager le plus correctement possible. Enfin moi c'est ce que je fais, en fait je m'adapte. C'est simple, je revois à l'entraînement mes temps de respiration, parce que j'ai l'habitude moi de respirer tous les deux temps.
Oui.
Donc toujours du même côté. Et en gros là ce qu'il faut faire c'est respirer tous les trois temps, et notamment respirer de face pour savoir où on va. Mmh.
Oui, parce qu'au final c'est hyper important d'être bien aiguillé entre guillemets, parce que alors on part de France, on arrive en Angleterre.
Non. Ah. C'est l'inverse.
On part en Angleterre et on arrive
Exactement.
En France. Et du coup, il faut faire entre guillemets le chemin le plus court. Donc c'est pratiquement une ligne droite. Mais est-ce que par contre on peut faire des zigzags?
Ah oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fera jamais.
Parce que là, il faut avoir un peu l'air marin pour bien être orienté. Je comprends bien.
Alors quand on nage l'air marin, je pense qu'on l'a pas en ferro extraction.
Oui.
Enfin, moi c'est ce que j'ai déjà nagé en mer et c'est ce que je fais en fait. Mmh. C'est il y a ce qu'on appelle des bateaux pilotes. Donc le bateau avec qui je vais faire la traversée, c'est lui qui va me guider.
D'accord, donc le bateau sera devant vous ou derrière vous?
Devant. D'accord. Enfin entre devant et à côté en fait. C'est lui ici sa position où il doit se positionner. Et en gros, il doit être pile poil bien positionné par rapport au cargo. Parce que la Manche, c'est quand même l'autoroute des cargos.
Oui.
Donc, ils vont passer vraiment très, très près. Donc, c'est vraiment aussi pour être vu. Parce que un nageur, enfin, un cargo, c'est un poisson. Hein. Mmh. Vraiment, on n'est rien comparé à eux. Ça, c'est sûr.
Oui, du coup, il y a tout ce travail du trafic maritime. Donc, vous êtes forcément signalé aux autorités, ce sera signalé et cadré le jour même. J'imagine qu'au niveau de la préparation aussi, vous devez vous attendre à peut-être avoir le vent de face tout le long. Ou dans le dos, on sait pas, ou sur le côté, et du coup ça demande. En fait, au final ça demande de s'entraîner pour quelque chose qui va être théoriquement deux fois plus difficile en fait.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la chance également de parler à des gros noms de la traversée de la Manche. Donc un nom Arnaud Chassery. Mmh. Donc lui il l'a fait 5 fois. Donc on se parle assez régulièrement. Mmh. Et à monsieur Philippe Croison également, que j'ai souvent au téléphone.
Ça rassure, c'est justement d'avoir des petits feedbacks, des petits retours.
Ça rassure, mais en même temps ça peut faire peur également, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la traversée de la Manche, comme ça porte super bien le nom, c'est l'Everest de la natation.
Ah oui, oula, oui.
Vraiment. D'accord. Et en gros il y a beaucoup de gens qui l'attendent chaque année. Il y en a très peu qui le réussissent chaque année, vraiment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas moi en fait qui va dire, voilà, je vais faire de Douvres au Cap Grinet.
Oui.
C'est ça mon trajet. C'est pas moi qui vais le décider. C'est le bateau qui va en fait le tracer en fonction du mieux.
Et donc vous allez suivre finalement la trajectoire du bateau.
Exactement. En fait, le bateau va me suivre et moi je vais suivre le bateau.
Voilà, vous, en fait, vous allez répercuter votre trajectoire par rapport à la scène.
Exactement.
D'accord.
Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le bateau, il va m'orienter vers la route. Mais par contre, le bateau va me suivre en fonction du courant. Tout simplement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, et c'est là où il faut se mettre en tête, et ce que je me mets tous les jours, c'est que je peux très bien faire 6 heures de nage en eau libre dans la Manche, et la Manche se déchaîne, et le bateau peut dire stop, on arrête.
Oui.
Et vous recommencez plus tard.
On peut reprendre de là où on s'arrêtait.
Ah non, de tout, ça, on recommence depuis le départ.
Ah d'accord, ok. Voilà. Donc au final, on passe d'une traversée de la Manche à une traversée et demie, presque, de la Manche.
Ça peut, si la mer est déchaînée,
ouais.
On peut très bien dire stop. Donc je peux très bien faire 30 bornes. Oui. Il reste 2 km, c'est quoi 2 km ? 2 km, c'est une, c'est une heure, même pas. C'est moins d'une heure, c'est 45 minutes. Mmh. Il peut dire stop, on arrête, la mer devient trop dangereuse, et on retourne au point de départ et on recommence quand la mer sera calmée.
Ah, ouais, donc il faut aussi croiser les doigts pour que les conditions climatiques soient dans votre bon sens.
Tout à fait.
Et donc ça, ce sera du dernier moment.
De quoi ?
Ce sera forcément du dernier moment, en mode c'est bon, là on peut pas.
Ça... Exactement. Regardez, j'ai pour l'exemple de Philippe Croison, justement.
D'ailleurs, vous avez choisi un peu le mois oui. Spécifiquement par rapport à la météo.
Oui, au mois de juin. Moi, je partirai là, aux alentours, la fenêtre du 9 juin. Mmh. Alors, voilà, c'est vraiment une fenêtre. C'est, je peux très bien partir le 9 juin, très bien. Comme je peux très bien partir 5 jours après.
Tout à fait, ouais.
Et là, c'est long, parce que on se met des périodes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il dit on top départ, c'est vraiment, faut pas qu'on soit à 6 heures de là, quoi. C'est vraiment qu'on tienne prêt, qu'on. Voilà, c'est vraiment. C'est top départ.
Bon, on vous a découvert dans la presse, effectivement, dans la Charente libre, comme on l'a dit. Si on souhaite suivre un petit peu votre actualité, est-ce qu'il y a une page sur les réseaux sociaux sur laquelle vous alimentez un peu votre projet ?
Alors oui, j'ai ma page Facebook, donc c'est Objectif Traversée de la Manche, juin 2023.
Ouais.
Et après, j'ai un compte Instagram, c'est Enzo Bruno, Beruano comme le prénom.
D'accord.
Et pareil, là, vous pouvez me voir également. Et également, pour ceux qui veulent faire un don, j'ai une cagnotte en ligne qui est sur ma page Facebook et sur ma page Instagram, qui est accessible à tout le monde.
D'accord. Bien.
En tout cas, moi, je vous dis chapeau parce que j'ai traversé la Manche également, mais je l'ai traversé en avion.
Ah, en avion.
Donc c'était un peu différent.
Un peu sportif.
C'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Vous allez traverser d'abord la Manche une première fois en avion, puis après à la nage.
Non, en ferry. Donc en bateau. Okay. Donc moi, je vais y aller en voiture parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on part d'Angleterre pour aller en France, bah, je serai clandestin. Parce que en gros, vu que j'aurai pas mes papiers sur moi, bah, je serai obligé, une fois la Manche traversée, retourner avec le bateau pilote qui m'a accompagné, retourner en Angleterre pour passer la douane pour aller en France.
Donc un périple de plus, petite difficulté de plus dans le périple.
Voilà, c'est ça.
Ça marche. Bon.
Sauf que lui, je serai protégé. Pour moi, ça, les douanes ne pourront pas m'avoir parce que voilà, c'est certifié, c'est payé, c'est tout organisé.
Projet évidemment à suivre attentivement. Enzo Bruno à l'instant sur Attitude, parmi nos invités reçus ce week-end à l'occasion du Forum Sport Santé Environnement. Enzo Bruno qui envisage de traverser la Manche à la nage en juin prochain. Nous allons changer de discipline, la marche nordique à présent. Le club était parmi nos invités hier après-midi. Deux invités interrogés par Seb et Didier sur Attitude ce soir dans Culture Sport. Ce sont les meilleurs moments du Forum Sport Santé Environnement enregistrés sur notre plateau hier et avant-hier.
C'est la marche nordique et pour cela nous accueillons donc l'amicale laïque d'Angoulême et ses sections marche nordique avec Sabine et Michel. Bonjour.
Bonjour.
Alors bienvenue sur le plateau d'Attitude, donc pour ce forum 2022 des sports et de la santé. Mais justement, la marche nordique est assez réputée pour maintenir ou du moins nous remettre en bonne santé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette discipline ?
Oui, effectivement, c'est une activité sportive qui se pratique avec des bâtons, qui commence à être bien connue à travers le monde, hein, parce qu'elle est développée depuis un certain nombre d'années, et en France depuis les années 2000. Donc c'est une activité qui permet de se déplacer avec des bâtons et donc de faire travailler tout le haut du corps par rapport à une marche normale, classique, qui apporte beaucoup de bienfaits, tant sur le plan musculaire que articulatoire, puisque que les bâtons permettent de soulager toutes les articulations, les articulations les plus fragiles des genoux, des hanches et puis même au niveau des chevilles.
Oui, c'est le double effet bénéfique, c'est que d'un côté on fait du mouvement pour travailler sa musculature et d'un autre côté on se soulage également. C'est adapté donc à différents profils, y compris les personnes qui souffraient peut-être un peu de problèmes de dos, d'arthrose, etc. Ça peut permettre de reprendre une activité physique sans se faire mal comme malheureusement on peut le faire dans d'autres disciplines.
Voilà, tout à fait. La marche nordique, elle se caractérise par le fait que c'est une marche de propulsion. contrairement à la randonnée par exemple, pour laquelle les bâtons servent essentiellement aux marcheurs à maintenir un certain équilibre. En marche nordique, on se propulse, c'est-à-dire que le bras, il y a une certaine gestuelle à s'approprier qui permet in fine de se propulser. On va avoir un appui sur le bâton vers l'arrière du corps, ce qui permet de propulser le corps vers l'avant. Donc comme vous disiez, on soulage non seulement le bas, mais on sollicite beaucoup le haut.
Oui, et vous parlez de marche justement, mais c'est pas pour autant que c'est de tout repos, c'est que c'est quand même une marche assez soutenue pour laquelle on apprend donc un mouvement et qui ensuite permet à peu près à quelle vitesse environ, c'est moyenne, forcément il y a des différences en fonction des personnes et du niveau, mais on marche à quelle vitesse en général?
Alors, on propose 4 niveaux de marche sur notre section. Un niveau bien-être avec une distance qui est entre 5 et 6 km à une vitesse de 4,5 horaire à peu près. On a un niveau normal avec un niveau santé, pardon, avec une distance un peu supérieure, 8-9 km, et là aussi la vitesse augmente. Un niveau normal où la distance tourne aux alentours de 10-11 km.
Ah oui, ça commence à être soutenu.
Voilà, et un niveau qu'on appelle soutenu où la distance va être aux alentours de 12-13 km et on peut aller jusqu'à une vitesse de 7-7 km.
Et à cette vitesse-là, quel type de parcours est-ce qu'on peut faire? On peut marcher combien de temps et combien, surtout quelle distance?
Alors nous, on est sur des parcours aux alentours d'Angoulême et on part en gros, grosso modo, on part sur 1h30 de marche avec 10 minutes d'échauffement avant la marche et puis 10 minutes d'étirement après.
Et au niveau du cadre autour d'Angoulême, j'imagine qu'il y a évidemment de très 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 beaux coins. On peut parler évidemment du côté quand on va vers Saint-Thierry, mais pas seulement d'ailleurs.
Tout à fait, donc c'est aussi l'occasion pour nos adhérents de découvrir, on a un beau patrimoine en Charente, et donc c'est l'occasion de découvrir tous ces coins dans un rayon, comme disait Sabine, à peu près de 15 km autour d'Angoulême. On a une base de données avec quelques centaines de parcours, donc on a une offre assez étendue, 365 jours par an, du lundi au dimanche inclus.
On peut vraiment marcher tous les jours.
Tous les jours. On a un site internet sur lequel on publie nos propositions de marche. Il n'y a aucune obligation de s'inscrire. C'est liberté totale.
D'accord.
On propose et les personnes décident de venir ou pas.
Quand vous dites les personnes, ce sont vos adhérentes et adhérents qui du coup prennent une licence à l'année et après peuvent venir en fonction des propositions pour la marche qu'elles souhaitent. D'accord, et donc du coup, quel type de public est-ce que vous avez? Ce sont des gens qui font ça en complément d'une autre activité? Ce sont des gens qui font juste de la marche, qui se remettent, des gens plutôt sportifs, des gens qui se remettent au sport?
On a un panel de marcheurs qui est assez différent. Donc on a effectivement des personnes qui arrivent n'ayant jamais pratiqué d'activité physique, mais on a aussi des personnes qui viennent du milieu sportif. Et on a un petit flyer à disposition sur notre stand avec des témoignages très différents de marcheurs venant du monde sportif très accompli et des personnes qui découvrent l'activité.
Et est-ce qu'on marche plutôt de jour, plutôt de nuit, plutôt
Alors on a principalement des marches offertes sur les matins, les après-midi, mais on a aussi des créneaux le soir pour les personnes qui sont encore en activité.
Et au niveau des adhérentes et adhérents, bon, je sais que tout le monde ne marche pas forcément en même temps tous les jours, mais vous avez combien au niveau des effectifs, vous êtes combien?
On est 15 animateurs brevetés UFOLEP.
D'accord.
Donc on a chacun suivi une formation bien particulière qui nous permettent d'emmener les groupes en toute sécurité.
Oui, vous devez être encadré légalement et avoir une certification pour pouvoir ensuite organiser ces marches.
Voilà, on ne sous-estime pas cette difficulté qui consiste à emmener un groupe en pleine nature. Donc il y a les aspects sécurité, mais comme disait Sabine, un échauffement adéquat au début de chaque marche de manière à éviter toute blessure éventuelle. Des étirements en fin de marche pour que chacun revienne entre guillemets à la vie normale,
oui,
de façon apaisée et surtout que chacun ait envie de revenir.
D'accord.
Donc voilà, on a une équipe de 15 pour le moment, ça évolue aussi, il y a un petit turnover naturel qui s'opère.
D'accord.
Et on a 155 adhérents sur la section marche nordique.
Ah oui.
Et hier matin, par exemple, au départ de la marche qui était à la limite de ma campagne et d'Angoulême, on avait 35 marcheurs qui ont été répartis sur 3 groupes. Donc le nombre oscille suivant les jours, suivant le nombre de participants aussi, suivant les journées.
Et pour les personnes qui viendraient sur le forum, du coup, on peut évidemment prendre contact avec vous, discuter de toutes les modalités qu'on vient d'aborder et bien d'autres évidemment. Est-ce que vous avez fait un petit atelier aussi où on peut les balader dans le coin ou ce sont vos promenades habituelles en fait qui sont toujours en vigueur?
Pour ce salon, on n'a pas fait d'activité à proprement parler, et donc on n'a pas emmené des personnes, on n'a pas fait d'initiation, ce qu'on avait fait il y a quelques années de cela, mais bon, on n'a pas fait.
Oui, de toute façon, vous l'avez dit, tous les jours on peut marcher, donc au final, une personne qui vient vous voir et qui est intéressée pourra, dès le lendemain déjà, pour...
Alors, on passe par une initiation, comme l'avait spécifié Michel, hein, donc c'est un geste qui n'est pas automatique, donc il faut travailler sur le geste, l'approprier, et donc on offre des initiations gratuites.
Et au niveau du matériel, justement, vous avez parlé de bâtons de marche, il doit y avoir des chaussures peut-être adaptées également, conseillées du moins.
Oui, alors les bâtons, on les prête lors des initiations.
Vous les prêtez, d'accord.
Les personnes découvrent l'activité et puis sentent un petit peu le matériel. Les chaussures spécifiques marche lourde sont des baskets, mais avec une tige basse, c'est-à-dire les chaussures de montagne. C'est vraiment une semelle crantée et une tige basse.
Oui.
La semelle est souple et crantée de manière à pouvoir adhérer au terrain.
Et accompagner le mouvement rapide, justement, où on stimule bien le pied, justement.
Voilà, donc on sollicite beaucoup le pied également. On attaque le chemin par le talon, on se propulse, on s'aide également du pied, en plus du bâton, comme je le disais tout à l'heure.
Mmh.
Donc effectivement, il y a une initiation qui permet de s'approprier le geste de manière à pouvoir à la fois faire découvrir l'activité aux gens, mais qui puisse se rendre compte également de l'intérêt de cette gestuelle. Parce qu'une fois qu'on l'acquiert, c'est tout bénéfice. On met en œuvre pratiquement 80%, on dit qu'on 80% de la chaîne musculaire est sollicitée, toutes les articulations sont sollicitées. Donc au point de vue physique, c'est vraiment un bienfait naturel. C'est d'ailleurs pour cela que pas mal de médecins prescrivent cette activité.
C'est vrai qu'on cherche souvent un sport complet, dit complet, qui fait travailler le corps, donc la marche nordique en fait partie et permet justement d'avoir ce coût d'accessibilité qui est peut-être un peu plus bas et qui permet de bénéficier tout autant de bienfaits.
Moi personnellement, je marche depuis 2 ans, j'étais jogger avant et
d'accord.
donc j'avoue que je regardais cette activité un petit peu de haut et à ma grande surprise, c'était une véritable révélation parce que j'ai découvert cette activité qui est absolument complète et surtout sans aucun traumatisme. Quand on court, le corps supporte le poids.
C'est clair,
à chaque pas, on supporte, je crois, 3 fois le poids du corps, sauf erreur. Alors qu'en marchant, c'est absolument aucun traumatisme.
Parfait. Le Covid n'a pas impacté le nombre de vos adhérents ?
Absolument pas. Au contraire, on a vu des personnes arriver parce que les salles étaient fermées. Et nous, on a pu continuer à pratiquer notre activité de marche nordique. L'ensemble de nos animateurs, on s'est fortement mobilisé parce qu'on avait quand même des consignes pour encadrer. C'était un animateur pour 5 personnes. Donc on a maintenu toutes nos séances de marche au fil des jours. Pendant toutes les périodes de Covid, on ne s'est jamais arrêté.
Bravo, c'est remarquable.
Ouais. Yes, oui. Et parlons de votre site internet maintenant, si on souhaite avoir plus d'informations, du coup, c'est je vois que c'est marche-nordique-ala, comme amical laïque d'Angoulême, .com, donc marche-nordique-ala.com. Et on peut voir des photos aussi de vos différentes sorties. Pareil, on voit que vous documentez pas mal les différentes balades que vous faites. C'est aussi pour faire vivre un petit peu la communauté.
Oui, je crois que les marcheurs sont contents de se retrouver et bon, de participer, comment dire, sous cette forme-là à la vie de notre section marche nordique.
Donc c'est vrai que chaque semaine, enfin chaque jour, on publie les marches, les propositions de marche pour les jours suivants. On a également un tableau mensuel qui spécifie pour le mois à venir l'ensemble des marches, avec pour chacune des marches les niveaux donc proposés, ainsi que les animateurs qui sont positionnés sur ces niveaux. Donc les adhérents sont à même d'avoir une vision à la fois sur le mois à venir, mais sur les 3-4 jours également. Alors sur le tableau, bien sûr, il n'y a pas encore les lieux, il y a les types de marches et les niveaux. Et ensuite, de manière un peu plus fine, on publie donc au fil de l'eau les marches sur les 3-4 jours à venir. Donc comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune obligation de s'inscrire. Les personnes prennent connaissance de la proposition et se rendent sur place. Et donc on essaie également de varier les lieux. Il faut aussi que ce soit une opportunité pour découvrir la belle Charente.
D'accord.
Oui, toutes les propositions sont bienvenues, j'imagine, au niveau des lieux de visite.
On peut peut-être ajouter, parler d'une activité complémentaire à la marche nordique qui est proposée par 2 animateurs de notre section.
Mm-hmm.
C'est une activité de bungee pump qui vise à renforcer, comment dire, toute la musculature du corps par un travail avec des bâtons. Mais à l'intérieur de ces bâtons se trouvent des ressorts sur lesquels on va être amené à exercer une certaine pression, soit voilà, avec les bras. Et donc c'est une durée un petit peu plus courte. L'activité dure sur une heure et quart. Et c'est une activité bon, qui peut faire permettre aux personnes de travailler le renforcement musculaire.
Ah oui, du coup on peut décoller assez haut. Et il y en a souvent aussi des sessions de...
Alors, toutes les semaines, il y a une activité de bungee jump qui est proposée, oui. Sur le site internet, vous avez, comment dire, un bandeau pour contacter les personnes, et notamment Jackie Renaud qui s'occupe des initiations.
La marche nordique, Sabine et Michel étaient à l'antenne d'Attitude hier depuis le Forum Sport Santé Environnement. On continue ce spécial best-of ce lundi soir dans Culture Sport. Nous allons changer de discipline une nouvelle fois. Et notre invité va nous parler karaté à présent sur Attitude.
Nous recevons Eric Labbé, bonjour. Labbé, pardon.
Bonjour. Oui, c'est ça, bonjour.
Donc, nous allons parler karaté, Karaté Club d'Angoulême. Ça fait longtemps déjà que cette salle, ce dojo, on dit en karaté, hein, ce dojo est ouvert hein, à Angoulême.
Tout à fait, ça fait depuis 1971 à l'initiative de Gilbert Billard, donc c'est lui qui a créé le club. Donc c'est un des plus anciens clubs, même de Poitou-Charentes. Mm-hmm. Donc nous on est situé effectivement à la fois sur Angoulême et sur Soyaux. C'est pour ça que ça s'appelle le CAS, Karaté Angoulême et Soyaux, puisqu'on est à la fois sur la salle de Jules Michelet, donc le gymnase Jules Michelet qui se trouve à Angoulême, et à la fois sur la salle de Léon Blum, donc le gymnase Léon Blum qui se trouve à Soyaux. Voilà, d'accord. Donc on a deux dojos.
D'accord. Pourquoi deux dojos? C'est que ça permet de faire des entraînements
historiquement, c'est effectivement on avait une possibilité d'agrandir un petit peu nos possibilités et surtout nos créneaux, puisqu'on avait quand même beaucoup de monde. On est le plus gros club de toute façon de Charente, mm-hmm. Avec en moyenne 150 licenciés, enfin, un petit peu plus, hein, mais voilà. Ce qui fait que ça nous permettait d'avoir des créneaux plus importants, et ça nous a permis aussi au fil de la progression en fait, et puis de l'évolution des années, de pouvoir ouvrir de nouvelles sections, puisqu'on n'a pas que des sections de karaté traditionnel. On pratique un karaté qu'on appelle le karaté Wado Ryu, c'est une école japonaise, mais on a aussi des nouvelles sections, puisqu'on a des karatés qui s'adressent aux seniors, on a des karatés, donc on a une section karaté santé senior. On a une section aussi qui est une section karaté contact, karaté full contact. Donc là on est plutôt sur du pied-point, sur des techniques qui sont des techniques de boxe pour le haut de corps et de karaté sur le bas de corps. Voilà, et on a aussi une section qui elle est plus orientée sur du karaté traditionnel kobudo, avec du travail sur les armes traditionnelles japonaises, que ce soit le bo, donc le bâton long, les tonfas, un peu comme pourraient avoir les policiers, ce gendarme et les tentos, c'est-à-dire en fait le couteau.
D'accord, donc ça demande finalement avoir énormément de créneaux, parce que j'imagine que les adhérents sont plus attirés par une certaine forme de karaté qu'une autre.
Tout à fait. Alors, on a cette possibilité-là au niveau du club de proposer à quelqu'un qui prend par exemple une adhésion karaté traditionnelle, de pouvoir accéder à tout le florilège en fait que propose le club, mm-hmm. quelle que soit la section. À l'inverse, on a des gens qui pertinemment par choix sont plutôt axés sur une discipline sportive plutôt qu'une discipline martiale ou un art martial. Donc là, elles sont un peu moins intéressées par le karaté dit traditionnel, mais plutôt intéressées par exemple le karaté full contact, oui. qui a plutôt une approche très sportive et très cardio, très physique.
Mm-hmm. Il y a les katas également.
Alors kata, tout ça c'est vraiment une approche très technique, oui. C'est les choses que l'on retrouve principalement dans tout ce qui est karaté traditionnel.
D'accord.
On a 20 dans notre école on a une vingtaine de kata. Alors tout le monde ne les connaît pas tous par cœur dès le départ, hein, clairement. Mm-hmm. Mais c'est les choses qui sont aussi voilà, en fonction des écoles. Il y a des écoles qui en ont jusqu'à 78.
D'accord.
Pas la nôtre, on est une école tranquille.
D'accord. Donc beaucoup d'adhérents. Parmi ces adhérents, il y a une parité homme-femme ou il y a encore beaucoup plus d'hommes qui pratiquent le karaté?
Et bien, je vous dirais presque l'inverse. On a énormément de femmes qui sont pratiquantes de karaté. Mm-hmm. C'est des choses qui ont changé depuis un certain nombre d'années déjà. Et on a énormément de femmes qui se pratiquent. Et curieusement, énormément depuis que la section contact s'est montée, énormément de femmes qui se mettent au karaté contact. Alors en light contact, hein, mm-hmm. mais on a énormément de femmes qui se mettent alors dans une peut-être dans un esprit plutôt de se rassurer, de prendre confiance en soi, mais voilà, énormément de femmes. Ouais. Je ne l'ai pas dit, c'est très important, on a une section aussi, on est les seuls à avoir une section karaté adapté.
D'accord.
Et ça c'est très important.
Oui.
Puisqu'on a trois créneaux qui sont uniquement pour le karaté adapté, handicap mentaux, etc.
Ouais, on sait d'ailleurs que c'est un sport, le karaté, qui est assez prisé au niveau du sport adapté et où on est très étonné justement des facilités de certains adhérents d'ailleurs.
Très très grande surprise sur la manière d'appréhender les techniques, la manière de les réaliser, la manière de les mémoriser, c'est vraiment très surprenant.
Et c'est un sport qui a beaucoup de règles, donc c'est quelque chose aussi qui rassure certainement.
Ça doit être aussi ça, la notion de discipline, parce que bon, on reste sur cette notion de discipline, on est sur une discipline martiale.
Oui.
Autant je parlerai d'un sport de combat pour tout ce qui est pied-point, hein, que ce soit le karaté contact, le karaté full contact, autant là sur le karaté, on est vraiment sur une discipline martiale, un art martial. Et effectivement, ce cadre, tout ce qui est autour, peut être quelque chose de rassurant.
Ouais. Parmi tous les adhérents, il y a également des enfants, j'imagine.
Alors,
à partir de quel âge ?
On a effectivement pas mal d'enfants, et heureusement, c'est la relève. À partir de 6 ans, on les prenait jusqu'à présent, on les prenait un petit peu plus tôt, jusqu'à la saison dernière, on les prenait à partir de 4 ans, pour des raisons pratiques. Mmh. Puisqu'on a perdu un de nos encadrants.
Oui.
Cette saison, on a décidé de mettre le baby karaté, puisque c'était le nom qu'on leur donnait, en sommeil. On garde la section, mais elle sera en sommeil. On les prend à partir de 6 ans et à ce moment-là, ils sont rattachés à la section enfant traditionnelle.
Ouais. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce qu'est le karaté ? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, hésitent à mettre leur enfant sur des sports, entre guillemets, de combat, hein, ou des arts martiaux, en tout cas, par crainte des blessures. Mais ce n'est pas un sport qui relève énormément de blessures par rapport à d'autres sports, comme le rugby, le foot, par exemple.
Très, très peu de blessures en karaté, déjà parce qu'on reste, j'insiste, on y reste sur une discipline, c'est une discipline martiale. Donc il y a un cadre qui est relativement important. En karaté, traditionnellement, on travaille aussi beaucoup dans le vide. Donc il y a de l'opposition, mais elle est toujours réglementée. Mais par contre, pour l'essentiel, on travaille vraiment, au moins en termes d'apprentissage, sur un travail dans le vide. Donc, c'est ce qu'on appelle les kihon. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu la démonstration, peut-être pas. On travaille dans un premier temps vraiment aligné. C'est un esprit, peut-être qu'on pourrait nous trouver un petit peu militaire, mais de toute façon, c'est vrai qu'à l'origine, ce sont des militaires qui ont mis ça en place. Mm-hmm. Donc on est très aligné, les mouvements sont tous synchronisés, on fait tous la même chose. Donc l'apprentissage de départ est très répétitif, mais permet d'avoir une gestuelle qui soit toujours la bonne, sans blessure, avec un maximum d'efficacité.
Ouais, puis qui sera conforme finalement à l'apprentissage voulu pour la pratique.
Tout à fait.
Très bien.
Est-ce qu'il y a des compétitions ou des compétiteurs au sein du club ?
Alors des compétiteurs, on en a eu de prestigieux, entre guillemets, puisqu'on a eu Amine Boisa qui était donc un compétiteur de chez nous qui a intégré l'équipe de France et qui est vice-champion du monde dans sa catégorie, qui a été champion de France à plusieurs reprises. Maintenant, bon, il suit son petit modem de chemin, je crois qu'il a quitté l'équipe de France, il est en train de... Voilà, les générations changent. Mais c'est assez récent, hein, ça date d'il y a 2 ans, donc voilà. Et effectivement, on arrive quand même à avoir quelques compétiteurs de temps en temps qui sortent un petit peu du lot et puis qu'on arrive à faire progresser.
Et puis c'est vrai que donc, l'an dernier, on a eu les Jeux Olympiques en décadé, mais le karaté a fait son apparition. J'imagine que vous avez suivi ça avec impatience.
Alors... je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient d'être championnat, enfin,
discipline
olympique.
Ouais.
Voilà.
Mm-hmm.
Parce que c'est quelque chose qui a été fait de manière un petit peu édulcorée, mais ça c'est mon avis, hein. Je pense que c'est l'avis de certains karatékas aussi. On a édulcoré un petit peu la manière de pratiquer le karaté, on a édulcoré, si vous voulez, il y a peut-être certaines pratiques qui étaient vraiment plus intéressantes et peut-être encore plus télégéniques qui n'ont pas été prises, par exemple les katas qui sont faits en équipe, qui sont magnifiques et qui permettent de faire des bunkai à la fin. Alors, ce qu'on appelle un bunkai, c'est l'application en fait du kata à 3. Donc là on voit à quoi ça correspond. Et là ça a été édulcoré, on nous a mis ligue a comme imposé de faire que du kata individuel, par exemple. Bon, pour un néophyte, voir quelqu'un faire des mouvements dans le vide, même si c'est très esthétique, ça parle pas forcément toujours. Donc il y a des fois, c'est des choses qui sont un petit peu dommages. Après, tout ce qui est compétition de karaté sportif au sens combat, le karaté combat, c'est pareil, c'est quelque chose, ça va très très vite. Un néophyte qui voit pas forcément les choses passer, ils comprennent pas et voilà. Donc c'est un petit peu compliqué.
Il faut avoir un œil quand même de technicien pour vraiment prendre la mesure de ce que les combattants font.
Tout à fait. Donc du coup, le fait qu'on n'y soit pas en 2024.
Oui, bah c'était. Oui. Vous anticipez justement ma prochaine question. Là, du coup, il n'y aura pas de karaté au JO à Paris. Non. Bonne, mauvaise chose.
C'est une décision politique, c'est un choix. C'est un petit peu dommage dans la mesure où le champion du monde olympique, il était de chez nous.
Oui. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que la France avait bien performé.
Donc c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est des choix. C'est des choix. Après peut-être que ça reviendra, peut-être que sous une autre forme.
Et donc au karaté, au-delà des compétitions, il y a le passage de ce qu'on appelle les ceintures.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se déroule et quel est le cheminement finalement pour arriver jusqu'à la ceinture noire, même si on imagine que c'est le Graal. Je crois que dans les arts martiaux, on dit que c'est le début finalement de l'apprentissage de l'art.
Vous avez tout compris, c'est exactement ça. En fait, généralement, quelqu'un qui vient chez nous, comme quelqu'un qui pratique d'autres arts martiaux qui sont sensiblement sur le même principe, soit le judo ou d'autres arts martiaux, on commence avec une ceinture blanche. Il y a une progression qui fait qu'on avance comme ça, ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, jusqu'à la ceinture marron. Et arrivé à la ceinture marron, il y a un examen d'état. Parce que là, c'est quelque chose qui est défini par une décision, en fait, avec un agrément ministériel, comme on passerait le bac ou autre, parce que c'est vraiment un examen. Et là, vous passez la ceinture noire. Et la ceinture noire, effectivement, c'est pas le Graal, c'est le début. C'est le tout début des arts martiaux, c'est le tout début du karaté. Ça veut dire que de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture marron, je vais faire une analogie avec la musique, on vous apprend le solfège, on vous apprend les notes, on vous apprend à placer ces notes. Et quand vous êtes ceinture noire, vous avez la connaissance de ces notes, vous savez comment réaliser les mouvements, vous savez comment faire ces choses-là. Là, vous êtes en capacité déjà de lire une partition et éventuellement de faire une première composition. Et là, on commence vraiment à travailler le karaté, on commence à avancer dans les grades. Et chaque examen, après, de grade, une fois qu'on a les grades de base, que ce soit jusqu'à la ceinture marron, on est premier dan, ceinture noire correspond à la première dan, et on passe régulièrement des danes, sachant que il y a un temps entre chaque dan. Hein. Ouais. Premier dan, pour passer au deuxième, il faut 2 ans. Passer au troisième, il faut 3 ans après le deuxième dan. 4 ans après et 5 ans à chaque fois. Voilà.
Ouais. C'est combien alors le plus haut grade au final? Combien il y a de dan?
Alors, en France déjà dans le monde. Parce que je crois que...
Alors, il y a une petite disparité sûrement dans le monde, je pourrais pas vous dire. Ouais. Parce que après, c'est des histoires de clochers, éventuellement de... Mais traditionnellement, mais même au Japon... Quand on arrive au 10e dan.
Ah oui.
10e dan. C'est un grade, déjà faut savoir que c'est un grade honorifique.
10e dan, donc ça veut dire que déjà pour le 3e, s'il faut le passer 3 ans après le 2e dan, donc on a quand même quelques années de karaté derrière nous.
Et 10e dan, généralement c'est un grade honorifique. C'est un grade qui correspond à ce qu'on appelle un soke, c'est-à-dire c'est le représentant d'une école. C'est lui qui a ce 10e dan. On en a un seul en France. Un seul en France. Qui vit en France, qui monsieur Maître Mochizuki, qui est japonais mais qui vit en France, et qui est le soke, le représentant de sa propre école. Après, on a sensiblement les mêmes choses après au Japon, mais il y a rarement des. Ça va pas au-dessus.
On s'arrête et, aussi. Alors je vais peut-être dire une grosse bêtise. Il n'y a pas une ceinture rouge aussi?
Alors, la ceinture rouge correspond en fait au 9e dan.
D'accord.
Ou alors, en compétition. C'est la couleur en fait, que l'on donne pour distinguer.
Oui, fait, le rouge d'un côté et le noir de l'autre.
Bleu, rouge et bleu.
Rouge et bleu, pardon.
Rouge et bleu. Ouais. Mais la ceinture rouge, effectivement, correspond au 9e dan. C'est-à-dire que vous êtes ceinture noire jusqu'à la 6e dan. Quand vous passez votre 6e dan, vous avez droit à une ceinture rouge et blanche. et à partir du 9e dan, vous avez la 9e, 10e, vous avez la ceinture rouge.
Donc ça veut dire que ce monsieur japonais qui vit en France, il a une ceinture rouge
Ils sont 9 à avoir une ceinture rouge en France. Ouais. Ils sont pas beaucoup.
Un club très fermé.
Tout à fait.
Et oui, c'est là où on voit que le karaté, c'est mère de patience, hein, finalement, puisque il faut attendre des années avant de pouvoir passer la 3e, la 4e dan. Donc c'est,
est-ce ça... que c'est vraiment une recherche? Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça,
oui,
la recherche.
C'est ce que j'allais dire, oui. Mais c'est valider en fait finalement un acquis et, mais par le temps.
Tout à fait, tout à fait, puisque ça se fait naturellement. Hein. Quelqu'un qui depuis un certain temps a un grade, bah, c'est son choix de vouloir le faire, comment dire, valider, sanctionner par ses pairs. Mais je connais beaucoup de mes petits camarades qui ont des niveaux extraordinaire et qui ne cherchent pas forcément à les faire valider. Ouais. Par contre, ils sont un très très bel enseignement et c'est très efficace par rapport aux élèves qu'ils ont. Nous commençons les cours dès lundi prochain, donc le 5, à partir de, je ne dis pas de bêtises, à partir de 19h à Léon Blum, au gymnase Léon Blum à Soyaux.
D'accord.
Et après, toute la semaine, tout s'enchaîne. À partir de mardi, on sera... Donc le lundi à Léon Blum, le mardi on sera à Jules Michelet. Et voilà, on alterne en fait.
D'accord. Un site internet, un lien sur internet pour pouvoir vous trouver, vous joindre.
Une page Facebook potentiellement?
Ou une page Facebook peut-être.
Alors on a. Je ne les ai pas là, je peux pas. Ça c'est pas bien. Mais
en tapant karaté en Angoulême Soyaux, on trouvera.
Oui, assez rapidement, effectivement. Ouais.
Ça vous pouvez le trouver. Puis il y a une page Facebook. Il y a à la fois ça, il y a un site internet qui doit être fait parce que là on est en cours. Mais par contre la page Facebook est complètement à jour et là il n'y a aucun souci.
Ouais, il y a moyen de venir découvrir pour voir si la pratique peut nous convenir ou pas.
Absolument, d'ailleurs on fonctionne sous cette forme-là. Quand on rentre dans un dojo, ce qui est important, c'est la pratique, c'est une certitude, mais c'est l'ambiance du dojo. Mmh. C'est l'ambiance du dojo, c'est le professeur. C'est, si on se sent bien, on reste et on progresse. Si on se sent bien ni avec le professeur, ni avec l'enseignement, ni avec le cadre, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Mmh. Donc, ce que l'on fait, nous, généralement, c'est tout le temps, les gens viennent avec un survêt, avec ce qu'ils veulent. Ils essayent une fois, deux fois. Si ça leur plaît, ils restent. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. Donc, ils viennent pour essayer, ils se font plaisir, et puis bon, voilà, on se prend pas la tête, on est soft.
Culture Sport, ce lundi soir, on vous propose une rétrospective du Forum Sport Santé Environnement avec quelques grands moments enregistrés ce week-end ici à l'antenne d'Attitude parmi nos nombreux invités, parmi tous les clubs sportifs que nous avons reçus pendant les deux jours. Nous allons clôturer cette sélection ce lundi soir avec le club d'escrime d'Angoulême, le cercle d'escrime pour être précis, accueilli à l'antenne par Seb et par Didier.
Tout à fait, nous recevons donc Monsieur Claude Agard, bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, le cercle d'escrime... On a envie de tout savoir forcément. En quoi ça consiste, depuis quand existez-vous, bref, qui est...
Le cercle d'escrime, il existe depuis 1930. Au départ, il a été créé sous le palais de justice.
À la salle Taillefer, c'est ça?
Voilà, salle Taillefer, voilà. Et donc il a voyagé vers Victor Hugo pendant quelques années. Et il est arrivé dans les années 2008 sur ma compagne. L'ancien emplacement de la piscine de ma compagne, on est dessus. D'accord. Avec un équipement avec 10 pistes.
C'est beaucoup ça, non?
C'est une des plus belles salles quand même de la région. On a 120 licenciés à peu près, là c'est pareil, hein. La moyenne des clubs en France c'est une cinquantaine. Nous on tourne à 120 avec une nouvelle équipe de maîtres d'armes qui sont arrivés depuis l'année dernière et qui nous ont emmené des jeunes en compétition. On a fini par exemple, on avait sur la salle, on a notre équipe de garçons en M15 qui sont revenus avec une médaille de bronze sur les championnats de France. Voilà.
Donc vous avez quand même un bon classement au niveau national. Oui. L'escrime, forcément pratique de combat et d'estocade, mais du coup très réglementé et très, on pourrait presque dire chorégraphié en fait.
C'est ça, en sachant que nous on fait du fleuret.
Oui.
Donc le fleuret, c'est l'arme d'apprentissage et c'est l'arme la plus technique.
Il faut toucher quelle partie du corps?
Alors que la partie du plastron.
D'accord.
que la partie du plastron. Et puis c'est pas le premier qui touche qui gagne, c'est le premier qui a l'intention de toucher qui touche qui gagne.
D'accord.
Donc si vous avez l'intention et que votre adversaire vous touche avant et qu'il a pas fait de parade, c'est annulé, on repart. Voilà, donc c'est un sport avec beaucoup de respect.
C'est très réglementé alors. Hein.
C'est très réglementé et ça a l'avantage, c'est que ça permet à nos enfants d'apprendre à trouver leurs équilibres, leur choix de décision. Parce qu'au moment où il faut partir, il faut vraiment bien avoir analysé ce qu'on veut faire pour pouvoir toucher la cible et gagner.
Oui, c'est qu'au final, la technique est vraiment pas dans le côté impulsif et hors de contrôle, mais vraiment dans la maîtrise du geste et dans le fait d'annoncer l'intention. Sinon, voilà, le jury est capable de dire bah non, là c'était accidentel, là, quoi, on peut pas.
Voilà, l'arbitre, lui, il va regarder ça. Et si lui, l'arbitre, il a pas vu que vous aviez l'intention, c'est neutralisé et on repart là où on est et c'est relancé.
Vous parliez des enfants tout à l'heure, donc vous avez combien de jeunes? Je t'ai peut-être coupé l'herbe sous le
pied. Non, c'est exactement ce que j'ai demandé. Exactement.
Alors au niveau des enfants, alors j'ai pris un antissage la saison dernière. Il faut savoir que on commence à 4 ans. On a un groupe de bébés de 4-5 ans, les moyennes et grandes sections. Là, on a une douzaine, on n'en prend pas plus parce qu'il faut quand même les accompagner, les encadrer. L'objectif, c'est qu'ils se fassent de mal, mais qu'ils se donnent du plaisir. Mm-hmm. On a un maître d'armes qui est super. Il a il a beaucoup de pédagogie, les enfants adorent. Donc ça représente à peu près 12% de nos licenciés. Voilà, et puis ça va jusqu'à...
Ça fait 15 gamins, 12%.
Ouais, ça fait une
12-15, ouais.
Voilà. Et on a, comment dirais-je, les plus anciens qui ont 70 ans, qui ont, ça représente 5% sur les personnes, les adultes. Souvent, on a aussi l'épée, mm-hmm. hein, deuxième arme. On ne pratique pas le sabre chez nous.
Pourquoi ?
Parce que d'abord, c'est une discipline particulière. Et on ne veut pas non plus trop se disperser.
D'accord.
Même si on avait un de nos deux maîtres d'armes qui était sabreur. Mais après, ça implique une organisation assez importante. Et on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc on s'est focalisé sur ça. On a aidé le club de Cognac à se développer. Et on a mis en place avec eux, à Ruffec, un club de sabre laser. Par contre,
génial.
Il a tourné toute l'année dernière. Donc le problème, c'est que notre maître d'armes, il s'en va sur la région parisienne maintenant, et donc on va arrêter.
Ça va s'arrêter, ouais.
Voilà.
Justement, moi j'avais une question sur les maîtres d'armes, parce que j'imagine que voilà un tel savoir-faire qui est autant cadré, on peut pas s'improviser entraîneur ou coach. Non. Vous êtes obligé d'avoir des gens qui sont licenciés, qui passent vraiment quelque chose d'officiel,
assez officiel. Ouais, c'est des athlètes qui ont passé un BGEPS, spécialité escrime, et dans la spécialité, après ils ont soit du fleuret, soit du sabre, soit de l'épée, soit toutes les armes.
Et donc voilà. Maintenant qu'on a vu comment apprendre, au niveau des rencontres et des compétitions, est-ce que le club est plutôt axé compétition, plutôt loisir? Vous arrivez à concilier les deux? Est-ce qu'il y a souvent des rencontres?
Non, il faut savoir que les compétiteurs dans un club, ça coûte quand même assez cher et ça représente à peu près entre 12 et 15% de notre activité. Mmh. Après on a de l'école, hein, on a beaucoup de jeunes, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les babies, mais on a aussi beaucoup d'écoles d'escrime, donc dans le primaire. Donc le primaire, l'année dernière, on avait à peu près 37 jeunes.
D'accord.
Qui sont venus. Plus après on a fait un travail avec eux, avec des écoles. Donc on a signé avec la mairie d'Angoulême cette année un contrat de ville pour pouvoir apprendre aux enfants qui sont dans les écoles prioritaires l'escrime, parce qu'ils ont, à part le foot, le hand, le volley, choses comme ça, ils n'avaient
Mais ça permet de varier un peu,
On a diversifié un peu ce schéma-là. Plus à Victor Hugo, on a l'école Victor Hugo, on a un Paris 2024 qu'on a mis en place pour accompagner l'école de Victor Hugo. Mm-hmm. On a signé avec la Fédération Française d'Escrime et puis l'Éducation Nationale et la mairie d'Angoulême, hein, et notre club. Un engagement sur 4 ans pour pouvoir arriver aux Jeux Olympiques à Paris.
Voilà. En termes de dotation, de matériel, etc., d'équipement, ça coûte combien pour un...
Alors,
est-ce que vous fournissez matériel pour les enfants?
Pour les petites sections, ce qu'on a des tenues qu'on appelle des kits initiation. où là on prête la tenue. Donc
le masque, le plastron.
Ouais, il y a un petit masque, un plastron et un fleuret en plastique. Où là l'objectif, on leur apprend les fondamentaux. Donc ça c'est tout le primaire. Et après dans les primaires qui veulent commencer, donc on a une section pour ce qu'on appelle les confirmés, qui là on commence à les équiper en tenue blanche. Donc une tenue après ça coûte relativement cher parce que entre le masque, il faut une sous-cuirasse, un plastron, une veste, un pantalon, cette tenue-là neuf, ça tourne autour de 500 €.
Ah ouais.
Donc nous on les loue 90 € pendant la saison, plus un chèque de caution pour nous permettre, si jamais on ne nous rend pas le matériel, un peu de retomber sur nos pieds, puis de renouveler chaque fois, parce que si les tenues ne sont pas en bonne santé, il faut qu'on les sorte du dispositif.
D'accord.
Parce qu'il faut quand même, quand les jeunes y tirent entre eux, il faut protéger les textiles qu'on utilise. C'est des 350 newtons, hein, c'est-à-dire que ça peut supporter une charge de 350 kg au moment où on va partir à l'attaque, et il faut que le fleuret ne traverse pas la tenue.
Bien sûr. Pour les jeunes, il faut changer de casque avec la croissance, etc.
Le masque, oui. Alors, c'est pas un casque chez nous. Ah. Ça s'appelle un masque.
D'accord.
Et le masque, oui, en fonction de la tête, on va changer. Donc, généralement, au démarrage, on loue plutôt le matériel. Et après, dès que les jeunes vont vouloir faire de la compétition, on les emmène à acheter du matériel. Parce que comme ça, ils sont bien dans leur matériel quand ils font la compétition. Après, il y a l'arme. Quand ils partent en compétition, il faut l'acheter. Il faut avoir deux armes. Donc quand ils sont dans les petites catégories des M9, M11, ils ont des lames 0. Après, ils passent en lame 2 et après, ils passent en lame 5. Donc à partir des M15 où ils font de la compétition qui les emmène sur les circuits nationaux, là ils travaillent plus sur du gros matériel. Donc avec les armes, le masque, les tenues, il faut qu'ils aient minimum 2 armes à chaque compétition, parce que si leur arme ne marche pas, la compétition elle est finie pour eux. Donc,
d'accord, voilà. Donc il faut qu'une arme soit en état de fonctionner.
Ouais, donc on leur apprend à entretenir leur matériel. Mmh.
Ça se passe comment? C'est des contacts électroniques?
Ouais, c'est des petits contacts, c'est de la basse tension, hein, donc pour que ça puisse allumer les lumières au moment où il y a une touche. Mm-hmm. Voilà, donc généralement le maître d'armes il va leur apprendre à réparer régulièrement leur matériel, à l'entretenir correctement pour que derrière ils arrivent toujours dans des situations de bon état.
Et du coup tout est vérifié avant chaque compétition en fait,
avant chaque compétition dans la semaine avant, on va vérifier que tout fonctionne bien. Si possible, ils réparent eux-mêmes. Nous, on leur laisse l'atelier, donc ça, c'est gratuit. Si c'est le maître d'armes qui intervient, donc on fait payer le temps du maître d'armes. Mmh. Mais la logique, c'est faire en sorte qu'ils soient le plus autonome possible, parce que même avec du matériel qu'on pense bien en bon état, quand on arrive sur la piste, des fois, il faut finir de le réparer.
D'accord.
Voilà. On peut casser la lame aussi, parce que des fois ça part tellement vite que la lame elle va se casser.
Justement, vous semblez parler de gestes qui sont très rapides, qui donnent beaucoup de vitesse et parfois de la force aussi. Quand on fait de l'escrime, quelles sont les capacités qu'on apprend à travailler? La stabilité, la concentration, la rapidité?
Ouais. C'est déjà au début, on va faire en sorte, parce que un jeune qui va tirer, s'il est droitier, il faut que son pied droit et sa main droite fonctionnent en même temps. Et s'il est gaucher, pareil.
Ah, donc la coordination en plus.
Il faut que la coordination fonctionne bien, qu'on ait bien les bons repères, parce qu'on a une piste qui fait 1m50 de large sur 14 mètres de long. On sait à quel endroit on peut arrêter, parce qu'on peut perdre un point parce qu'on est sorti de la zone. Et il suffit que le bout du pied touche la zone, ça passe. Mais dès qu'on est sorti de cette zone-là, on peut perdre un point. Donc on leur apprend à gérer l'environnement et à gérer les...
Je me demandais rapidement combien de temps dure un combat d'escrime. C'est très rapide en fait.
Oui, ben ça peut durer. Alors pour les petits, c'est généralement dans les poules, ils tirent en 4 touches, enfin à 4 points.
Oui.
Dans la partie tableau, après, ils vont tirer sur du 8 points ou 10 points, ça dépend des catégories. Et donc ça va durer 3 minutes. Mais au bout de 3 minutes, s'ils n'ont pas atteint, on va faire une pause et on va leur redonner un temps. Et des fois vous êtes en tête et puis vous faites durer le combat et vous gagnez au point, et enfin sur le temps, pas sur forcément, parce que vous êtes en tête sur les points et voilà.
Comme le temps se termine, vous avez le plus de points, c'est vous qui remportez le duel.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Donc ouais, on peut jouer dans différents styles, différentes stratégies, ça permet d'avoir une expression de.
Vous avez des Italiens qui aiment bien faire ça.
D'accord.
Ouais. Ils vont se lasser, délasser, enfin retrouver des solutions pour déstabiliser, pour qu'ils discutent beaucoup. Voilà.
Un petit focus l'escrime en France. C'est un sport qui se porte bien et qui a des résultats, non?
Bah, disons que l'escrime, c'est le sport qui ramène le plus de médailles à l'équipe de France
à tous les championnats.
Voilà.
Championnat d'Europe, championnat du monde,
Jeux Olympiques. Beaucoup avec.
Lionel Cannon, c'est ça?
Ouais, c'est ça, mais aussi beaucoup par équipe. C'est-à-dire qu'on ramène beaucoup de points grâce au kit, parce que c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. Et je trouve que le sport d'équipe est presque plus motivant, parce que on a 3-4 tireurs et il faut que voilà. Et quand on les voit gagner à la fin, les compétiteurs, je trouve qu'ils ont encore. Ça multiplie la joie de gagner quand ils sont en équipe que lorsqu'ils sont tout seuls.
Et si j'ai bonne mémoire, les Italiens sont des concurrents redoutables, non?
Ouais, les Italiens, les Russes, voilà. Mais on domine quand même pas mal.
Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, d'ailleurs, non?
Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est pas comment dirais-je défini. On avait aussi beaucoup de bons entraîneurs en France, de haut niveau. Donc voilà, il y a une bonne plateforme. Mais c'est pendant un temps, on en avait pas mal qui partaient vers la Chine ou vers d'autres pays. On retrouve, je veux dire, un
élan.
Ah ouais. Alors on a beaucoup quand même de régions Guadeloupe, Martinique qui nous ramènent les belles médailles quand même. Hein,
d'accord.
Ça marche. Moi j'avais une petite question sur un programme donc, qui se passe entre les collectivités et les clubs dont vous avez parlé en antenne, vous avez dit en faire partie, c'est le programme Sport Santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus?
Alors Sport Santé, on a commencé à développer ce dispositif-là avec un dispositif qui s'appelle avec la Ligue du Cancer, où on a un dispositif qui s'appelle Riposte, qui permet aux femmes qui ont subi une ablation du sein de les aider à se réparer. Parce que d'abord ça va leur redonner confiance. Parce qu'on a le masque, on a une tenue, on a une arme et donc on a une distance. Donc ça apprend ça. Et puis après, en fonction du sein qui a été opéré, ben on va retravailler. Là on va utiliser un sabre. Parce que l'objectif c'est pas de piquer, là, c'est vraiment de faire des gestes.
De toucher, oui.
Voilà, de toucher. Et donc on a remis en place avec la Ligue du Cancer de la Charente le dispositif depuis le mois de janvier, parce qu'il faut que nos maîtres d'armes ils aient un agrément pour faire ça. Donc ils sont 3 jours en stage avec sur Toulouse.
D'accord.
Où il y a un centre de carcinologie et un maître d'armes qui est là-bas et qui leur apprend de la pédagogie pour travailler avec ces gens-là. On travaille aussi sur les personnes à mobilité réduite. On a 2 praticables qui nous permettent d'accueillir des personnes qui veulent pratiquer l'escrime. Donc on est en train de travailler ça avec un autre tireur qui s'appelle Enzo Bruno. Voilà, et puis on a au fur et à mesure on réfléchit à des solutions pour pouvoir travailler sur le côté santé. On en parlait avec le SDOS ce matin pour voir si il y a des gens qui ont des problèmes de santé et le médecin il peut faire un certificat pour pouvoir qu'on ait des créneaux pour permettre à ces gens-là de se reconstruire.
Une pratique adaptée en fait en fonction des différentes séquelles des corps post-opération.
Ouais. Le ZOS nous propose une formation pour nos maîtres d'armes de 3 jours en Charente. Et après, on pourrait développer une activité pour accompagner les gens à retrouver la santé.
Parfait. Dernière question, comment le grand public peut vous joindre sur... est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook, quelque chose comme ça?
Oui, alors, il y a des pages Facebook, il y a des pages, surtout aujourd'hui... alors, je suis pas trop fort là-dedans, mais mes collègues travaillent avec Instagram, avec tous ces réseaux sociaux. Ils ont développé pas mal d'outils. Sinon, on a un site qui est escrimeangoulême.fr.
Qui est très clair, d'ailleurs on peut trouver pas mal d'infos
sur lequel on a beaucoup de passages. Ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui on permet aux licenciés de retrouver l'escrime en cours d'année, c'est-à-dire que s'ils arrivent au mois de janvier, on va leur faire payer deux trimestres. D'accord. Et la licence. Alors que
son prorata temporis, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et quelqu'un qui veut arrêter au mois de décembre, on lui redonne les deux trimestres qu'il aura pas fait, et puis voilà.
D'accord.
Moi, j'ai une petite dernière question. J'ai vu que sur votre site, justement, dont vous parlez, donc escrimeangoulême.fr, il y a des stages aussi prévus pour les adhérents adhérentes.
Oui, tout à fait. Dans les périodes de petites vacances, on organise des petits stages de 3 jours. Pendant les vacances de la Toussaint, de Noël, de février. En avril, on l'avait mis, mais il n'y a pas eu beaucoup de succès, mais on va travailler. Puis on essaye de se rapprocher des centres sociaux, des MJC, pour leur proposer des solutions.
Voilà, c'était le spécial Forum Sport Santé Environnement ce lundi soir dans Culture Sport. Rendez-vous la semaine prochaine pour une spéciale dédiée au rugby avec en invité Jérôme Di Tommaso. Lundi prochain, dès 18h30, ne manquez pas le SA15 Magattitude, le magazine consacré à l'actualité du rugby en Charente et particulièrement du SA15. Et à 19h, lundi prochain, les résultats en région présentés par Christian. Passez une excellente soirée à notre écoute. Vous allez retrouver les podcasts des différents moments du Forum Sport Santé Environnement dès demain sur notre site et la page Facebook. Évidemment, le podcast du SA15 Magattitude et le podcast de l'émission Culture Sport. Attitude.